7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bon réveil à tous, bonjour, bonne semaine. Nous sommes le lundi 8 avril. 3 mois de grands débats, près de 2 millions de contributions. La restitution commence aujourd'hui, passage à haut risque pour le gouvernement. Décryptage, analyse dès 7h dans le journal d'Hélène Zélani. 7h40, l'édito de Jean-Michel Apathy. 7h45, les propositions choc de la jeunesse. Je reçois l'un des cofondateurs de la plateforme internet Entendre la France qui a recueilli leurs doléances. Dans certaines écoles, la cantine à 1 euro. Démarrage à la fin du mois. Qui est concerné? Comment va fonctionner le dispositif? Tous les détails dans le journal de 7h30 aujourd'hui. Dans les zones défavorisées, 1 enfant sur 10 arrive en classe le ventre vide. Il faut le savoir. On vous dira tout à 7h30. Le poids des taxes dans la flambée des prix de l'électricité. L'INSEE tire la sonnette d'alarme. Les détails avec Axel de Tarlet à 7h43. Et puis l'espoir, grâce à vous. Pour le petit Anatole, le garçon est aux États-Unis, il a 9 ans, pour soigner sa tumeur au cerveau. On passera un coup de fil à son papa dans quelques secondes avec Hélène Zélani pour prendre des nouvelles. Ça, c'est le programme qu'on vous annonce. Est-ce que vous êtes en forme? Vous êtes prêts à aller avec nous jusqu'à 9h? Est-ce que vous êtes réveillés? C'est parti, c'est la reprise. Bon réveil à tous.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce lundi matin. Il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À l'une de l'actualité ce matin.
Sur quelle mesure débouchera la crise des gilets jaunes? Édouard Philippe dévoile ce matin le bilan du grand débat. Verdict mi-avril, c'est Emmanuel Macron qui annoncera les décisions concrètes. À Marseille, un collectif de mères de famille lance un appel. Elle demande que les biens confisqués aux criminels soient redistribués aux quartiers populaires. Et puis l'incroyable boulette de l'attaquant du PSG, Choupo-Moting, hier soir face à Strasbourg au Parc. Il a stoppé un ballon qui allait droit dans le but alsacien. Score final de partout.
Ça arrive. Elle met le but tout le temps. C'est Audrey Crespo-Mara à 8h15 avec la députée européenne Les Républicains Nadine Morano.
Et on va donc tout de suite prendre des nouvelles d'Anatole, bientôt 9 ans, ce petit garçon pour lequel vous, les auditeurs d'Europe 1, vous êtes mobilisés. Anatole souffre d'une grave tumeur cérébrale, tous les traitements ont échoué. Son seul espoir, être soigné aux États-Unis, mais ça coûte très cher. Fin février, vous avez reçu son père, Nikos, qui a lancé un appel aux dons pour financer le voyage et les soins, plus de 132 000 euros déjà collectés.
Un appel entendu. Anatole est en ce moment à Washington et nous sommes justement en ligne avec son père, Fabrice Donghi. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour Nikos.
Comment va Anatole aujourd'hui?
Anatole a commencé son traitement jeudi dernier. Son état est stable, donc c'est déjà une bonne chose. On est content de ça.
Est-ce qu'il est conscient de ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il vous dit?
Alors, il est conscient que c'est une nouvelle étape, mais il est aussi conscient de tous les dons de générosité qui autour de lui. Nous, on lui relaie toutes les petites attentions, tous les messages, les dessins, les vidéos qu'il reçoit, tout ça. Et il est très sensible à ça et ça le porte énormément.
Et quand est-ce que vous saurez si Anatole réagit bien au traitement américain?
Selon les neurochirurgiens ici, au mieux, on devrait avoir une réponse d'ici 2-3 mois. On espère une stabilisation de la tumeur, mais on est souvent, de toute façon, on est dans des cas de traitements expérimentaux, donc on a pas beaucoup de visibilité. Et puis, on est dans des maladies et des traitements qui durent souvent des années. Donc, on espère une amélioration rapide, mais ça peut prendre du temps.
Voilà le parcours du combattant d'Anatole. 9 ans, très courageux, mais comme vous aussi, Fabrice Donghi, en tant que papa. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin depuis Washington. Et si vous voulez aussi, chers amis auditeurs, auditrices, aider Anatole, vous pouvez participer à la cagnotte Tous avec Anatole contre son cancer. Et vous trouverez le lien sur Internet. On postera tous les détails sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Il est 7h02.
C'est le grand jour pour Édouard Philippe.
Oui, à partir de 9h sous la verrière du Grand Palais, le Premier ministre va conclure le grand débat. Ses 10 000 réunions locales, ses 16 000 cahiers de doléances et ses centaines de milliers de propositions sur Internet. Au total, plus d'1,5 million de Français ont participé directement. Emmanuel Macron devrait annoncer ses réponses concrètes autour du 15 avril, mais dans la majorité, Adrien Beck, les députés espèrent bien être écoutés.
Des propositions sur la table et des députés qui mettent la pression sur Emmanuel Macron. Prise en compte du vote blanc, allègement de l'impôt sur les classes moyennes, automaticité de la prime d'activité. Là-dessus, ce serait bien qu'il nous écoute. Nous n'avons pas toujours été de mauvais conseils. Regardez la CSG, les 80 km/h, pointe un cadre de la majorité. Si ça rejoint le programme d'Emmanuel Macron et que ça ne remet pas en cause l'équilibre budgétaire, il faut qu'on soit ouvert, estime un ministre qui ajoute « Je pense qu'Emmanuel Macron a bien en tête qu'il faut qu'il écoute sa majorité ». Des députés qui, il est vrai, ont parfois l'impression d'avoir été relégués au second plan du grand débat national, qui ont parfois fait part de leurs doutes au gouvernement sur la loi anti-casseurs, par exemple. Alors si le président pouvait retenir une ou deux de leurs propositions, ça leur donnerait l'impression qu'ils ne sont pas totalement inutiles, recommande un conseiller ministériel qui dit commencer à sentir un vent de fronde au sein de la majorité.
Adrien Beck, Emmanuel Macron promettent en tout cas de répondre aux souhaits des Français sans reniement ni entêtement. L'instauration de cette taxe avait été annoncée par le chef de l'État en pleine crise des Gilets jaunes. Le fameux projet de loi de taxation des GAFA, les géants du numérique, arrive à l'Assemblée cet après-midi. L'État espère récupérer 400 millions d'euros cette année.
Le Rwanda commémorait hier le 25e anniversaire du génocide des Tutsis.
Au moins 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Des cérémonies se sont tenues à Kigali, la capitale, sans Emmanuel Macron qui avait envoyé un représentant, le chef de l'État, qui souhaite que le 7 avril devienne une journée de commémoration. Alain avait 15 ans lorsque plusieurs membres de sa famille ont été massacrés sous ses yeux. Il participait hier à la cérémonie organisée à Paris. Il regrette qu'Emmanuel Macron ne se soit pas rendu personnellement au Rwanda.
C'était une occasion pour le président de la République de se rendre au Rwanda, justement, de marquer une rupture nette avec ses prédécesseurs. Il n'y est pas allé et donc je pense que vraiment il a raté une très bonne occasion pour marquer la rupture. En même temps, tout n'est pas néant parce que je pense que c'est le premier président à poser autant de gestes qui restent par ailleurs des petits pas quand même, mais qui donnent espoir. Il vient de déclarer la journée 17 avril, la journée nationale du souvenir du génocide des Tutsis. C'est quand même significatif. Donc oui, il y a des avancées, mais des petites avancées.
Un témoignage recueilli par Victor Delande.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. On va partir à Marseille. On va vous parler d'une initiative très étonnante d'un collectif de femmes des quartiers nord de la ville. A tout de suite et bon réveil sur Europe 1.
Il est 7h07, votre matinale info, Nicolas Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani et cet appel lancé par des femmes des quartiers nord de Marseille.
Oui, des mères, des sœurs qui ont souvent perdu un enfant, un frère dans des règlements de compte liés au trafic de drogue. Elles ont décidé de lancer une pétition pour que les biens confisqués au crime organisé bénéficient à leur quartier pour des projets d'économie solidaire. Nathalie Chevance les a rencontrées pour Europe 1.
Cité des Flamands, une demi-douzaine de victimes liées au trafic de drogue et un réseau omniprésent même en plein jour. Fatima Mostefaoui a grandi ici, elle a vu le programme de rénovation urbaine. Mais les nouvelles façades n'ont rien changé au mal profond qui gangrène ces quartiers. Alors avec d'autres femmes, cette militante associative demande une nouvelle loi pour faire en sorte que l'argent confisqué des mafias soit réinjecté directement dans les cités.
Vous décidez des lois pour nous. Vous ne vivez pas ce qu'on vit. Donc, comme cet argent est d'or, ben, reversez-le aux premières victimes. Les victimes, c'est nous. Ça veut dire qu'en vérité, avant que l'argent nous arrive et que les choses nous arrivent, tout le monde s'est servi. Ça veut dire que dans nos quartiers, il y en a qui vivent dans les quartiers et il y en a qui en vivent. Et de ça, c'est fini, c'est plus possible. C'est l'argent qui tue dans les quartiers. Il n'y a pas de retombée. Si aujourd'hui, j'avais cet argent-là, j'ouvrirais une école pour handicapés. Je construirais un conservatoire. Ramenez l'argent et nous, on va vous montrer ce qu'on fait avec l'argent. Parce qu'on connaît le terrain, on a des talents ici. Mais comme ils ont été cassés par la vie, leur ambition, on la met vite à la poubelle.
Et cet appel des femmes des quartiers nord s'inspire de ce qui se fait déjà en Italie depuis quelques années, le réinvestissement des biens de la mafia confisqués dans des projets solidaires. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Les actionnaires de Nissan étaient réunis ce matin à Tokyo. Ils ont voté la révocation de Carlos Ghosn en tant qu'administrateur. Il était déjà limogé de la présidence de l'entreprise depuis sa première arrestation en novembre.
Football, s'il y a bien un joueur qui est la risée des réseaux sociaux ces dernières heures, c'est Choupo-Moting du Paris Saint-Germain.
Oui, hier soir, les Parisiens ont été tenus en échec par Strasbourg au Parc des Princes. De partout, il leur suffisait pourtant d'une victoire pour décrocher leur 8e titre. Mais ils sont passés à côté à cause de l'incroyable raté de leur attaquant, Éric-Maxime Choupo-Moting. C'est ce que nous raconte Julien Froment.
28e minute de jeu, le Paris Saint-Germain croit reprendre l'avantage quand soudain, Éric-Maxime Choupo-Moting entre en scène. L'attaquant camerounais empêche alors un de ses coéquipiers de marquer en sauvant le ballon sur la ligne du but strasbourgeois. Sur le banc, c'est la stupéfaction. Kylian Mbappé n'en croit pas ses yeux. En tribune, les supporters préfèrent en rire.
Choupo, il est exceptionnel. À chaque match, il nous fait un truc incroyable. Faut être serein pour sauver un ballon sur la ligne comme ce soir. Hein.
Geste défensif exceptionnel. Non, je sais pas ce qui se passe dans la tête d'un joueur à ce moment-là pour faire ça.
Le principal intéressé, sifflé à sa sortie par le Parc des Princes, est courageusement venu devant la presse pour tenter d'expliquer l'inexplicable.
Même moi, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas tout à fait. Je suis désolé parce que le ballon, en fait, entrait, je crois. Et moi, j'ai hésité de prendre le ballon. Même mon réflexe, malheureusement, a fait ça et c'est dommage.
Le Paris Saint-Germain, qui aurait dû célébrer le 8e sacre national de son histoire, s'est fait voler la vedette par son attaquant maladroit. Son loupé fait déjà le tour du monde. Après l'humiliante élimination contre Manchester United, Paris se serait bien passé d'une telle publicité.
Julien Froment, et prochaine chance pour le PSG de devenir champion de France, ce sera dimanche face à son dauphin à Lille.
Non mais c'est terrible, mais il ne faut pas en faire 3 tonnes non plus, ça va. Ouais, ça, il est passé à côté du rendez-vous, il ne faut pas le tuer non plus. Merci beaucoup Hélène Zélani.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h10, l'heure de retrouver Carole Ferry sur le terrain, Nikos.
Vous êtes où, Carole, ce matin? Bonjour.
Bonjour, Nikos. Bonjour à tous. Je me trouve juste en dessous d'une girouette en métal.
Ah
vous savez,
bon,
ce sont souvent des coques qu'on voit accrochées aux maisons et qui pivotent en fonction du vent. Oui. Mais ici, à Brucieux, dans les monts du Lyonnais, c'est une girouette très particulière. En fait, c'est un capteur de pollen, car vous avez ici le laboratoire qui analyse pour toute la France les particules responsables des allergies. Alors, vous avez peut-être le nez qui coule en ce moment, les yeux qui pleurent, l'éternuement
ça
facile, ça vous parle?
Ça oui, peut non, arriver, ça ne fait pas en ce moment, ça va.
Alors, en ce moment, si ça vous arrive, c'est normal, c'est le retour des pollens de printemps. Et ces capteurs, justement, ils vérifient chaque semaine, partout en France, quel pollen se balade dans l'air, en quelle quantité. Les explications de Samuel Monnier, il est ingénieur.
Donc voilà, on est devant le capteur de pollen. Donc il fonctionne tout simplement avec une pompe aspirante qui aspire l'air à raison de 10 litres d'air par minute. Il a été calibré ainsi pour simuler la respiration humaine qui est aussi à 10 litres d'air par minute.
L'appareil aspire les pollens qui se collent
voilà,
sur une espèce de scotch.
Sur ce scotch, exactement, c'est ça.
Alors, une fois que les pollens sont collés, on en fait quoi, Carole?
Alors, le scotch est placé sur des lamelles de microscope et là, écoutez bien, tendez l'oreille, tout est analysé à l'œil humain.
Platanus, platanus, cupresse, platanus, pinus, pinus, platanus, pinus.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là?
C'est des pollens que j'observe au microscope. Là, je suis derrière mon microscope et je vois sur la lame différents pollens. Et donc, je les compte grâce à un système de reconnaissance vocale et ils s'enregistrent automatiquement sur mon ordinateur. Donc là, j'ai compté des pollens de pin, par exemple, pinus, des pollens de platane, on dit platanus, et puis des pollens de cyprès, cupresse.
Comment vous faites pour les reconnaître? Je peux regarder?
Oui, bien sûr. Oui.
Là, j'en vois un qui est bien gros en bas. Alors, à droite.
Le plus gros, c'est le pollen de pin. Il a un peu les oreilles de Mickey. Il ressemble un peu à une tête de Mickey. Il a des ballonnets.
Oui, c'est donc ça, c'est celui-là.
Ça doit être lui.
C'est sympa de pouvoir les reconnaître,
observer,
les pollens.
Ouais.
Vous êtes en train de nous dire, en fait, Carole, que lorsqu'on regarde la carte des vigilances des pollens, derrière, il y a ce monsieur qui les compte. Mais quoi, c'est un par un au microscope?
Mais c'est exactement ça, Nico. Vous imaginez le travail? Enfin, c'est lui ou l'un de ses collègues, hein, bien sûr. Et ce sont des informations extrêmement importantes pour les personnes allergiques, notamment celles qui peuvent déclencher des crises d'asthme, bien sûr. C'est pour ça que toutes ces informations sont envoyées aux médecins, aux hôpitaux, aux mairies. Et puis, vous pouvez les trouver, bien entendu, également sur Internet, sur le site pollen.fr.
Alors, cette semaine, quels sont les risques, justement, par rapport au pollen?
Alors, il faut se méfier des pollens de bouleau, très présents en ce moment en région parisienne et du côté de l'Alsace-Lorraine, surtout s'il fait beau. Alors là, on va demander à Laurent Cabrol tout à l'heure. Et puis, attention, les graminées vont arriver d'ici quelques semaines. Ils font partie, bien sûr, des pollens les plus allergisants.
Ceux-là, ils sont terribles. Vous avez le nez bouché, ou si je ne m'abuse?
Moi, je crois que j'ai pris quelques pollens de bouleau dans le nez avant de partir, oui.
C'est platanus. Platanus pinus, hein, clairement. Platanus sinus. Non, c'est les sinus, là, qui en prennent un coup. Merci. Les pollens sont là. Il faut notamment éviter de rouler les fenêtres ouvertes. Merci Carole Ferry pour ce reportage.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
L'édito éco avec Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nikos.
Vous nous parlez ce matin de grands groupes industriels français qui apparemment se sont fait avoir quand ils se sont mariés avec des étrangers. C'est pas à chaque fois gagnant.
Et des Français non, et des Français qui malheureusement font preuve parfois d'un peu trop de naïveté.
A tout de suite, à 7h20, quel avenir pour Abdelaziz Bouteflika, l'ex-président algérien qui pourrait prendre la route de l'exil vers la Suisse. Et pas seulement pour la douceur du climat. On vous dit tout dans notre enquête. Europe 1 va plus loin.
Bon réveil à tous sur Europe 1, il est 7h14. Et les 7h16, les principaux titres à retenir ce matin, Nicolas Saliagas.
L'heure de la conclusion a sonné pour le grand débat. Édouard Philippe va tirer le bilan des propositions ce matin au Grand Palais. Mais pour les premières annonces, il faudra attendre la semaine prochaine. Comme prévu, les actionnaires de Nissan viennent de décider la révocation de Carlos Ghosn après 20 ans de règne. Le président de Renault, Jean-Dominique Sénard, devient membre du conseil d'administration. Football, les Parisiens devront encore attendre avant d'être sacrés champions de France. Ils ont été tenus en échec par Strasbourg hier soir au Parc. De partout.
Europe 1. C'est l'heure, Nicolas, de l'édito Éco avec la Banque Kolb pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Kolb, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Nicolas Barré est le directeur de la rédaction du journal Les Échos avec nous, comme tous les jours. On va parler de ces grandes entreprises, Lafarge, Essilor, Technip. Ce sont des grands groupes français qui se font engloutir par leurs partenaires étrangers, notamment, Nicolas, à la suite de fusions qui à chaque fois tournent mal. D'abord, le cimentier Lafarge. Il y a 5 ans, on nous vantait le mariage avec une société suisse.
Oui, ça devait être un mariage entre égaux, effectivement, pour donner naissance à un géant mondial capable de résister aux pays émergents et aux Chinois en particulier. 5 ans après, le bilan est tout autre. Et d'ailleurs, c'est le groupe suisse qui a pris le pouvoir. À vrai dire, côté français, tout le monde était un peu sceptique depuis le début, parce que quand on vous présente une grande opération comme ça, financière, comme un mariage entre égaux, général, c'est qu'il y a un loup et l'histoire du capitalisme est remplie de mariages de ce genre qui finissent soit par un divorce, soit par une prise de contrôle pure et simple de l'un par l'autre. En l'occurrence, Lafarge, l'ex-fleuron du CAC 40, dont les PDG accompagnaient souvent les présidents de la 5e République dans leur voyage officiel, eh bien, ça n'est plus que l'ombre de lui-même.
Et cette société suisse, c'est Holcim. Alors, ce n'est pas un cas isolé ?
Non, en ce moment même, d'ailleurs, le mariage entre un autre fleuron français, Essilor, le fabricant de verres de lunettes, et l'italien Luxottica, qui fabrique des montres, est en train de virer au cauchemar. Là aussi, les belles promesses du jour de l'Alliance ont volé en éclats. Les parties françaises et italiennes se font la guerre. Il ne peut pas y avoir deux chefs, et en l'occurrence, ce sont les Italiens qui sont en train de prendre le pouvoir. Et puis, autre exemple récent, la fusion entre le champion français du secteur parapétrolier, Technip, qui est un groupe d'ingénieurs qui figure au CAC 40 également, avec le texan FMC. Bien, là aussi, c'était présenté comme une fusion entre égaux, et 2 ans après, la fusion a vite tourné à l'avantage des Américains.
Mais qu'est-ce qui se passe dans ces 3 cas, par exemple ? Les Français sont fait avoir ?
On peut voir ça comme ça, effectivement, mais dans les 3 cas, en fait, regardez, qui a pris le pouvoir ? Ce sont ceux qui contrôlent le capital. Les Français, en fait, ont été naïfs, c'est la loi du capitalisme, le pouvoir résulte de la détention du capital. Et dans les 3 cas, les actionnaires suisses, italiens, américains étaient de loin les plus puissants. Et ça devrait nous interpeller. Il faut encourager la détention du capital et la détention d'actions, et ne pas faire la chasse aux actionnaires en cherchant éternellement de nouveaux moyens de les taxer. À la sortie du grand débat, eh bien, c'est pas mauvais de le rappeler, parce que le capital, c'est un élément clé de la souveraineté économique, au fond. Mmh. Et si on l'oublie...
C'est le pouvoir.
Eh ben exactement. Et si on l'oublie, il ne faudra pas s'étonner que des grands groupes français continuent comme ça de passer sous contrôle étranger.
Donc des fusions, oui, mais pas à n'importe quel prix.
Exactement.
Nicolas Barré, l'édito éco sur Europe 1.
Europe 1. Nicolas Saliagas. Et il est 7h20, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, ce matin consacré à la retraite d'Abdelaziz Bouteflika. L'ex-président algérien pourrait s'exiler en Suisse.
Une semaine après sa démission, son portrait est retiré des rues, des administrations. Et demain, le Parlement se réunit pour nommer un président par intérim qui doit le succéder. Bonjour Pierre Abulot.
Bonjour Nicolas.
Avec vous, on va s'intéresser aux options qui s'offrent désormais à Abdelaziz Bouteflika. Alors, il se murmure qu'il devrait quitter le pays, direction Genève, qu'il connaît bien.
Oui, il faut savoir que la Suisse, c'est le 2e pays d'Abdelaziz Bouteflika. Il y a vécu pratiquement 10 ans avant d'être élu président. Il y retourne pour son premier déplacement officiel de chef d'État. Enfin, c'est surtout là que se trouve son médecin de confiance depuis des années. Alors, pour son ancien ami et directeur de thèse Jean Ziegler, Abdelaziz Bouteflika pourrait très bien revenir vivre en Suisse jusqu'à la fin de sa vie.
Il est tout à fait possible que le président Bouteflika revienne à Genève comme n'importe quel patient qui a des problèmes de santé pour profiter de cette extraordinaire compétence de l'hôpital genois. Mais je ne sais pas ce qu'il va faire maintenant, mais ça ne m'étonnerait pas, et je serais même assez normal qu'à fur et à mesure qu'il lutte contre sa maladie, il fasse de nouveau appel à l'hôpital cantonal où le dernier séjour, comme vous le savez, c'est très très bien, c'est bien passé et était efficace.
Mais l'histoire du président algérien en Suisse ne se résume pas à ses derniers séjours à l'hôpital, Pierre.
Non, elle a même plus de 40 ans après la mort du président Wari Boumediene en 1978. Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères, est chassé d'Algérie, soupçonné d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent. Il choisit Genève pour son exil. C'est surtout parce qu'il y a caché l'argent volé, dénoncent ses opposants. Toujours est-il que le ministre déchu de l'époque découvre la culture suisse de la discrétion. Pile ce que recherche sa famille aujourd'hui, décrypte Taharouchi, correspondant local du quotidien Liberté Algérie.
Genève est une terre idéale parce qu'il y a le secret, pas forcément bancaire, mais le secret de la vie individuelle. On peut se fondre sans que personne ne vienne enquiquiner. La presse n'est pas très enquiquineuse comme en France ou en Italie. On viendrait chercher le buzz. Les gens fortunés viennent vivre ici dans l'anonymat, que ce soit du Alain Delon en matière de cinéma ou des dirigeants politiques africains, ils passent inaperçus.
Mais c'est à ce moment-là, à cette époque-là, Pierre, qu'Abdelaziz Bouteflika tombe amoureux de la Suisse.
Oui, comme ses frères et sœurs d'ailleurs, hein, mais lui en parle carrément comme d'un modèle à copier. C'est ce qu'il a raconté dans les années 80 au fondateur de la mosquée de Genève, Hafid Ouardiri.
Je l'ai entendu dire souvent qu'il était heureux d'être à Genève, en disant qu'à chaque fois que nous parlions de ce qui se passait dans le monde arabe, à chaque fois il revenait en disant que ce serait bien que dans nos pays on soit à l'image de ce magnifique pays qu'est la Suisse. Et ça, c'était son engouement, quoi. Certainement, avec sa famille, il reviendra par là, parce qu'il y a là une résidence qui avait été préparée depuis longtemps, qui s'appelle le Château de Prigny. C'est certainement là où il finira ses jours. C'est une des petites communes de Genève, et c'est là où il y a une résidence, un ancien château qui a été retapé. Et en principe, c'est souvent là que sa famille se retrouve.
Une résidence achetée par l'Algérie en 2008 pour 30 millions de francs suisses. J'y suis allé, le terrain de 35 millions mètres carrés est caché derrière de grandes grilles. À l'intérieur, la vue sur le lac Léman est à peine troublée par les jets privés qui viennent se poser sur le petit aéroport quelques centaines de mètres plus bas. L'hôpital universitaire de Genève, lui, est à moins de 5 km à vol d'oiseau. Le point de chute idéal, donc. Mais le palais présidentiel tempère. La propriété est exclusivement destinée aux représentants algériens aux Nations Unies, ce que semble indiquer une plaque en bronze accrochée au mur. Sauf que certains médias algériens croient savoir que le clan Bouteflika y a aussi l'habitude pour ses vacances depuis 10 ans.
Et les Algériens attendent demain la nomination par le Parlement d'un nouveau président par intérim. Une page tournée après plus de 20 années de règne d'Abdelaziz Bouteflika. Merci Pierre Herbulot pour ce dossier très fourni, très complet. Europe 1 va plus loin.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Anicet Mbida pour l'innovation à suivre ce matin. On commence la semaine avec quoi, cher Anicet ? Bonjour.
Avec de la cuisine, mais des cuisines ouvertes où les éviers, les plaques de cuisson peuvent complètement disparaître pour avoir un design parfaitement zen, parfaitement épuré.
Vous parlez des cuisines américaines où le canapé sans le graillon, c'est ça ?
Vous allez voir, c'est beaucoup mieux que ça.
Dans le salon, on a la cuisine dans le salon. A tout de suite, merci beaucoup.
Il est 7h24, bon réveil avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 7h27, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, Nikos, c'est avec Anicet Mbida.
Et on connaît, mon cher Anicet, la tendance des cuisines américaines. Le seul souci, c'est qu'on se retrouve souvent avec les plaques de cuisson à côté de la table basse du salon. Donc tout est mélangé, il y a les odeurs. Vous avez un nouveau système ?
Oui, un système assez intéressant qui va cacher complètement la cuisine. Et c'est-à-dire que les invités auront l'impression de voir un simple buffet dans le salon.
D'accord.
Alors que la cuisine, en fait, est complètement camouflé à l'intérieur. Donc la plaque de cuisson, par exemple, elle est totalement intégrée dans le plan de travail, hein, dans la matière même du plan de travail. Mm-hmm. Donc on voit rien, il n'y a aucun bouton, aucune aspérité, tout est parfaitement lisse. Mais quand on pose sa casserole à l'endroit où ont été cachées justement les plaques à induction, eh bien elle se mettra à chauffer. Donc non seulement ce sera plus propre, mais en plus elle sera beaucoup plus discrète.
Et les émanations ?
Alors ça justement, pour les émanations, on n'a pas encore trouvé l'astuce. Ouais. Il y a simplement un système où au lieu d'avoir la hotte au-dessus de la plaque de cuisson, elle est directement au milieu de la plaque de cuisson, donc elle aspire plutôt que de la laisser
les odeurs
partir. Non, je trouve ça intéressant.
Et au niveau de l'évier, on fait comment ?
Alors pour l'évier, c'est un peu plus compliqué. On crée d'abord des robinets qui sont escamotables, donc dès qu'on appuie dessus, ils rentrent dans le plan de travail, et puis pour le faire sortir, on rappuie une deuxième fois.
Super.
Et quant à l'évier, pour le faire disparaître, on va rabattre par-dessus une sorte de crédence qui est ajustée au millimètre et qui va complètement camoufler l'évier. Et le résultat, c'est qu'on a un meuble qui est totalement lisse encore une fois et qui va se fondre dans le séjour une fois le repas préparé. Il y a plusieurs fabricants sur le coup, on peut les voir au SADEC, c'est le salon de l'écu, la cuisine équipée qui a lieu jusqu'à ce soir à la Porte de Versailles à Paris.
Et quand on veut se laver les mains, on ouvre le meuble à chaque fois, on appuie sur le bouton.
On voit dans la salle de bain, ça marche aussi très bien.
Moi je vais vous dire, la plupart des gens vivent quand même dans leur cuisine.
Mais oui, petite c'est ou grande cuisine. Comme pièce.
C'est là où on discute, c'est là où on prend le petit déjeuner, on se dispute parfois, c'est là où on fait les contre-soirées, c'est là où on fait les devoirs des enfants. Oui. Donc moi je suis partisan de la vie en cuisine. Merci pour cette innovation, c'est devenu une pièce à vivre la cuisine et peut-être que grâce à vous elle pourrait être dans le salon.
Avec moins d'odeur.
Voilà. Anicem Bida, tous les jours pour l'innovation du jour.
Et c'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kallmann. Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol-Nicos.
Mais vous y passez du temps dans votre cuisine, Laurent Cabrol.
Ah, surtout sûr. Quand on fait la météo. La météo, c'est une vraie cuisine. Croyez-moi. Alors, vous allez voir. Vous
qu'est-ce
commencez.
Qu'on a au menu aujourd'hui?
Il y a de tout. Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Dijonais, il y a de la pluie en ce moment qui va se diriger maintenant vers l'Auvergne, vers la Bourgogne, le Nord, la Picardie et la Champagne-Ardenne. Sur Paris, il ne devrait pas pleuvoir. Le temps sera nuageux, légèrement, comme sur la Normandie, l'Orléanais, le sud du Massif central, la ville de Lyon. Là aussi, pas de pluie ou très peu dans l'après-midi. En ce qui concerne le littoral atlantique, alors là, c'est de la pluie qui arrive maintenant et qui va gagner rapidement l'Aquitaine, le Béarn, le Poitou-Charentes, la Vallée de la Loire et la Bretagne, avec des averses et des orages. Du soleil en Méditerranée où ça a été très agité hier, on y reviendra peut-être. Température maximale 13 à 18 degrés dans la journée, cela veut dire qu'il fera doux, mais qu'il fait froid ce matin, mes amis, entre 1 et 8 degrés. Voilà.
À suivre avec vous dans la prochaine demi-heure. Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Nous sommes le lundi 8 avril, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
La plus belle, Céline Kallmann est avec nous, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Payer 1 euro pour manger à la cantine, le dispositif a concerné jusqu'à 10 000 communes, environ 70 000 élèves. C'est une des mesures phares du plan pauvreté lancé par Emmanuel Macron en septembre dernier. Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Solidarité, en a fait l'annonce hier dans les colonnes du JDD. Roman Oquet.
10 000 communes sont concernées par ce dispositif, principalement des villages ruraux qui n'ont pas les moyens de proposer des tarifs sociaux. Cette cantine à 1 euro doit donc venir en aide aux familles les plus modestes. Une mesure de bon sens justifie la secrétaire d'État Christelle Dubos.
Je pense notamment aux familles monoparentales dont la maman ou le papa recherchent un emploi et sont en dessous d'un certain seuil de ressources. Plutôt que d'aller chercher les enfants tous les midis, vont permettre à ces enfants de rester manger à la cantine, d'avoir un repas équilibré, bien évidemment. Mais aussi de pouvoir bénéficier des activités et d'être avec leurs copains et copines entre midi et deux, à passer un temps aussi avec eux. C'est aussi de la socialisation des enfants.
Si dans votre commune, vous payez déjà le repas de votre enfant moins d'un euro, pas d'inquiétude, les tarifs ne changeront pas. Le dispositif annoncé par le gouvernement sera sur la base du volontariat pour les communes qui remplissent les critères. Dans ce cas, l'État apportera une aide de 2 euros sur un coût de 4,50 euros en moyenne par repas. Pas assez, répond la Fédération de parents FCPE qui défend la gratuité de la cantine pour tous.
Roman Oquet, autre mesure, les petits déjeuners gratuits dans les écoles des quartiers en difficulté. Ce sera mis en place d'ici 10 jours dans 8 académies et généralisé en septembre prochain. 500 personnes attendues au Grand Palais ce matin à Paris, début des restitutions du grand débat. Exercice périlleux pour le gouvernement. Édouard Philippe va livrer son interprétation des contributions déposées par les Français. 2 millions de suggestions en ligne et des milliers de cahiers citoyens remplis dans les mairies. Le Premier ministre fera une déclaration devant l'Assemblée demain et devant le Sénat mercredi. Les députés se penchent à partir d'aujourd'hui sur la taxe GAFA, la taxe sur les géants du net, une mesure qui devrait aider à financer les 10 milliards d'euros débloqués en réponse à la crise des gilets jaunes.
Le procès d'Abdelkader Mehra avec aujourd'hui le témoignage d'un miraculé.
Oui, un rescapé de l'école juive de Toulouse en 2012, Brian Bijaoui, avait alors 15 ans. Il a été touché par la première balle de Mohamed Mehra. Ce jour-là, 48 heures de coma. Lors du premier procès, il n'avait pas eu la force de venir témoigner. Mais aujourd'hui, il se sent prêt, Pierre de Cossette.
Raconter ce qu'il a vécu est une épreuve. À la presse, il n'a quasiment jamais parlé. 20 mois après la tuerie de Toulouse, fin 2013, Brian accepte l'invitation d'Europe 1. Il ne veut pas parler de ce qu'il s'est passé ce jour-là. Cette balle qui a traversé son corps, qu'importe, on retient la pudeur de ce garçon de 16 ans et sa réponse quand on lui demande ce qu'il pense de Mohamed Mehra.
Je suis qu'un homme, je ne peux pas juger. Je ne suis pas parfait pour pouvoir parler des autres.
Il y a un an, Brian Bijaoui n'était pas prêt à affronter l'épreuve de la cour d'assises, mais le temps a fait son œuvre. L'avocat du jeune homme, Philippe Soucy, a vu le changement.
Il m'avait dit à l'époque, je ne veux pas voir le complice du barbare qui a tué mes camarades. Aujourd'hui, les choses évoluent. Et c'est de dire, bon, c'est aussi mon procès. Et je souhaite dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu le 19 mars 2012 à l'école aux oratoires. Je crois qu'il le fait évidemment pour lui-même, il le fait pour la cour, et je crois surtout qu'il le fait pour ses camarades.
Si vous lui demandez comment il va, Brian vous répondra toujours qu'il va bien, ajoute son avocat, qui sait bien pourtant que le jeune homme, aujourd'hui étudiant de 19 ans, angoisse à l'idée de témoigner publiquement cet après-midi.
Pierre de Cossette pour Europe 1. Carlos Ghosn, révoqué par les actionnaires de Nissan ce matin à Tokyo. Il avait déjà été limogé de la présidence en novembre dernier. Par ailleurs, sa femme a quitté le Japon après la nouvelle arrestation de son mari. Elle a confié au JDD hier s'être sentie en danger alors que la justice voulait l'interroger.
À partir de ce soir, Canal Plus diffuse une nouvelle série. Ça s'appelle Vernon Subutex.
Oui, c'est l'adaptation du roman en 3 tomes de Virginie Despentes dont les 2 premiers ont été vendus à 500 000 d'exemplaires. La difficulté était de retranscrire à l'image l'errance dans les rues de Paris de ce disquaire déchu. 9 épisodes de 30 minutes ont été tournés. Nicolas Carreau a regardé la première saison. Il a fait une comparaison avec le roman.
Ça commence par un flashback. Nous sommes en 1995 au Revolver, le magasin de disques tenu par Vernon Subutex, alias Romain Duris.
Je me souviens, on entrait dans le rock comme dans une cathédrale.
23 ans plus tard, Vernon a perdu de sa superbe. Il a une 50aine d'années, une barbe hirsute. Son magasin est fermé depuis longtemps et il refuse obstinément de s'intégrer au système. Résultat, il est expulsé de son appartement. Il fait donc la tournée des copains de la grande époque, comme Xavier, marié, père de famille en bourgeoisie.
Je peux faire la réflexion tout à l'heure. Je crois bien que t'es un des derniers témoins de la vie d'avant.
Ouais, mec. Après moi, c'est l'extinction de l'espèce.
Il y avait bien Alex Bleach aussi, un vieux pote devenu une icône de la musique, mais il meurt d'une overdose et laisse à Vernon de mystérieuses cassettes vidéo que certains aimeraient bien récupérer. Dans la série, l'intrigue se rapproche plus du thriller. Ce n'est pas une transposition directe de l'œuvre, mais l'esprit du livre est là, et le rock aussi. Le budget musique est 7 fois plus important que pour une série traditionnelle.
Nicolas Carreau pour Europe 1. En football, il y a les jours de grand soir et puis il y a les autres. Le PSG devra attendre pour remporter son 8e titre de championnat, tenu en échec au Parc des Princes face à Strasbourg, 2-2 hier soir, à cause notamment d'un raté invraisemblable d'Éric Choupo-Moting. Ouais, un raté qui va rester dans l'histoire, comme l'écrit si bien l'équipe ce matin.
Merci Céline Kallmann, c'était le journal de 7h30. Bon réveil à tous.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, écrivez-nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nicolas Saliagas sur Europe 1.
Il est très actif sur les réseaux sociaux, mais quand il parle politique, il tranche. Jean-Michel Apathy, à suivre.
Oui, Nikos, on va parler aujourd'hui de la restitution. Puisque c'est le jour de la restitution, le gouvernement fait le bilan du grand débat. Pour les décisions, il faudra attendre encore un peu.
Hâte de vous écouter dans quelques instants. Axel de Tarlé.
On va parler de l'électricité qui est de plus en plus taxée. Écoutez, on atteindra peut-être un jour le niveau de l'essence en matière de taxes.
Vraiment ?
Non, pas encore, mais on y va tout doucement.
Vous nous direz pourquoi. Apathy Tarlé, dans un instant, sur Europe 1. Bon réveil.
Belle matinée, 7h36. Il est 7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Passage à haut risque pour le Premier ministre. Aujourd'hui, il entame ce matin la restitution du grand débat.
Oui, alors le grand débat, qu'est-ce que c'est la restitution? C'est une étape nécessaire et importante dans ce grand débat qui est décidément interminable. Le Premier ministre sera au Grand Palais à Paris. C'est une belle verrière, il y aura 500 personnes, il y aura des ministres, des élus, des citoyens qui ont participé à ce grand débat. Il y aura aussi les chefs des administrations centrales et là, des entreprises spécialisées qui ont numérisé les 2 millions de contributions écrites par à peu près 600 000 Français et qui ont aussi numérisé tous les propos tenus dans les 10 000 réunions publiques qui se sont produites sur le territoire pendant ce grand débat. Donc ces entreprises spécialisées vont ou ont ordonné, trié, rangé, hiérarchisé les propos fatalement désordonnés des Français pendant le grand débat. Et ça nous permettra d'avoir une idée des thèmes qui sont revenus le plus souvent. Alors, on connaît déjà à peu près l'organisation, le pouvoir d'achat et la fiscalité sont revenus le plus souvent. Les Français ont beaucoup parlé de santé en s'inquiétant du vieillissement de la société française. L'attachement au service public est revenu. Et puis toutes les questions de démocratie, référendum, vote blanc. Donc, tout ça va être présenté de manière ordonnée, hiérarchisée. D'accord. C'est important parce que ça montre que Le grand débat lui-même est pris au sérieux par le gouvernement, la parole des Français ne tombe pas dans un trou, et il s'agit bien de faire quelque chose de cet objet politique. La présentation devrait durer à peu près 3 heures, donc il faudrait être patient.
Et puis après, c'est un état des lieux des doléances.
État des lieux de ce qui s'est passé exactement pendant 3 mois. C'est exactement ça, Nikos. Et après, le Premier ministre devrait faire un petit discours, 20 minutes, qui aura une particularité, c'est que ce discours ne l'engagera en rien. C'est comme s'il allait parler pour ne rien dire.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que tout le monde attend que le président décide.
D'accord.
Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que le président qui peut dire « ça je prends et ça je ne prends pas ». Le président devrait s'exprimer dans une dizaine de jours. On ne sait pas trop sous quelle forme encore. Mais le président est devant deux problèmes importants qui montrent combien il est dur de sortir du grand débat. Le premier problème, c'est que s'il prend une décision en matière de pouvoir d'achat, vieillissement, service public, ben, comme il n'y a pas d'argent dans les caisses, il est pratiquement obligé de faire un impôt correspondant ou un prélèvement correspondant. Ça, c'est très difficile, s'il faut prendre une mesure sérieuse. Et puis d'autre part, on pourra toujours douter de la légitimité des mesures si le président en prend, parce qu'elles sont issues d'où ces mesures ? D'une prise de parole dont on ne sait pas si elle est majoritaire ou minoritaire dans la société. Il y a comme une dictature du grand débat qui est l'émanation d'une dictature des gilets jaunes. Au fond, tout cela a une légitimité très fragile si on ne vérifie pas dans les urnes que telle ou telle mesure que pourrait prendre le président serait majoritaire. La case référendum ou une autre case qui permet à l'ensemble du corps électoral de parler paraît difficile à éviter pour sortir dans de bonnes conditions du grand débat. Vous connaissez sans doute l'expression « on n'est pas sorti de l'auberge », et bien de la même manière, on n'est pas sorti du grand débat.
Si c'est une auberge espagnole, c'est toujours plus compliqué.
C'est très compliqué, les auberges espagnoles et les françaises ont l'air pas mal non plus.
Jean-Michel Apathy sur Europe 1. Axel de Tarlé, l'INSEE dénonce le poids écrasant des taxes dans la flambée des prix de l'électricité. Voilà, mais d'abord, pub.
La Caisse d'épargne vous présente le Zoom Eco. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Je vous ai teasé. Hein.
Oui, alors moi j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que le prix de l'électricité dont on parle va encore augmenter de 6% l'été prochain. Vous savez qu'en 10 ans, il y a une association de consommateurs, CLCV, qui a noté que la facture aura augmenté en 10 ans de près de 50%. L'INSEE vient de publier une note sur l'électricité. La facture moyenne par ménage, elle atteint maintenant 960 euros par an.
Ok, c'est considérable l'augmentation dont vous nous parlez, mais pourquoi une telle flambée des prix ?
Alors, dans cette note, eh bien, écoutez, l'INSEE désigne le coupable. C'est un coupable qu'on connaît bien en France, ce sont les taxes. Entre 2010 et 2016, le niveau des taxes sur l'électricité est passé en France de 26 à 35%. C'est-à-dire que maintenant, quand vous payez l'électricité, plus du tiers, ce sont des taxes. Alors, on n'est pas encore au niveau de l'essence, comme je disais, qui est taxée à plus de 60%, mais vous voyez, on y va tout doucement. Alors, ces taxes, bien sûr, elles sont imposées au niveau de l'écologie, mais il est là le malaise. Si vous voulez, cette fiscalité verte est venue s'ajouter à une fiscalité déjà record en France. C'est ce qui a déclenché, on en parlait à l'instant, la colère des gilets jaunes. D'autant cette colère, elle est nourrie parce qu'on peut parfois avoir l'impression, très désagréable, que le climat est finalement devenu un prétexte bien commode pour lever un peu plus d'argent. De fait, si vous réfléchissez, du seul point de vue du climat, l'électricité française est irréprochable. Elle a peut-être bien des défauts, mais elle n'émet pas de CO2 grâce au nucléaire. Et pourtant, cette électricité propre du point de vue du CO2 subit une avalanche de taxes environnementales. Alors maintenant, c'est même très vicieux parce qu'on est entré dans un système où le serpent se mord la queue. Parce que pour aider les ménages les plus modestes qui n'arrivent plus du coup à payer cette facture qui atteint près de 1000 euros par an, on a créé des aides, le chèque énergie. Chèque énergie qui est financé comment ? Par bingo ! Une nouvelle taxe qui vient alourdir le prix de l'électricité, ça c'est la CSPE. Donc vous voyez, on n'arrête pas le progrès, on invente des taxes pour adoucir des taxes. Alors reconnaissons hier que dans le journal du dimanche, on a lu ce mea culpa de Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, qui dit effectivement la fiscalité verte doit être incitative. Son but, dit-il, ne doit pas être de récolter de l'argent. Eh bien écoutez, ça va mieux en le disant.
Et l'éolien, l'électricité éolienne ?
Eh bien c'est ça, elle est subventionnée par ces taxes sur l'électricité, ce qui prouve bien que l'objectif, ça n'est pas de sortir du CO2 de toutes ces taxes, c'est de sortir du nucléaire. Mais vous voyez, c'est du point de vue du climat, ça ne change rien.
Axel de Tarlé sur Europe 1, le Zoom Eco.
Le Zoom Eco avec la Caisse d'épargne, 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
On parlait du grand débat il y a quelques instants avec Jean-Michel Apathy. Dans un instant, vous allez écouter les propositions choc des jeunes dans les cadres de ce grand débat. Il y a de l'inattendu, hein. Je reçois le cofondateur de la plateforme internet Entendre la France qui a recueilli lors de l'éance. Vous en parliez Jean-Michel, vous allez l'entendre, il y a des choses étonnantes.
On écoute.
A tout de suite sur Europe 1, il est 7h45.
Il est 7h47, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Sans surprise, les actionnaires de Nissan ont révoqué Carlos Ghosn après 20 ans de règne. Le président de Renault, Jean-Dominique Senard, devient donc membre du conseil d'administration. Édouard Philippe au Grand Palais, on l'a dit, avec Jean-Michel Apathy. Il sera à Paris ce matin pour dresser le compte-rendu du grand débat national voulu par Emmanuel Macron. 500 personnes vont assister à ses conclusions. 4 500 000 euros de promesses de dons, bilan du site d'action qui s'est achevé hier soir. Une hausse de 100 000 euros par rapport à l'an dernier.
Europe 1. Nico Saliagas, à l'occasion de la restitution du grand débat par le gouvernement, vous recevez ce matin Jérémy Lefebvre, cofondateur de la plateforme internet Entendre la France.
Bonjour Jérémy Lefebvre.
Bonjour Nikos.
Il y a eu trois manières de contribuer au grand débat. Hein. Participer aux réunions locales, écrire sur les fameux cahiers de doléances à l'ancienne, en mairie par exemple, ou passer par le site internet officiel. Et vous Jérémy, vous aviez mis en place une autre voie, une plateforme directement sur les réseaux sociaux. Il y a eu près de 360 000 contributions et 80% de ceux qui ont participé ont moins de 35 ans. C'est même la moyenne d'âge en deçà, c'est-à-dire qu'est autour de 29 ans, c'est ça ?
Moyenne d'âge de 29 ans, c'est ça. Ouais.
Qu'est-ce que ça dit de la jeunesse et de ce besoin de se connecter aux réseaux sociaux ?
En fait, on a lancé Entendre la France au mois de décembre, quand on a vu le grand débat émerger dans l'actualité. On s'est dit, tous les moyens qui sont mis en place, notamment les cahiers de doléances et les réunions démocratiques citoyennes en mairie, ce sont des excellents moyens. Mais on pense que certaines personnes, certaines franges de la population, notamment les jeunes, n'iront pas et ne participeront pas à ces réunions.
Parce qu'ils ont leur téléphone portable.
Voilà, leur téléphone portable, ils communiquent autrement, ils participent autrement.
Alors, oui, il y a différents éléments marquants qui ressortent. Hein. D'abord, c'est une forte défiance vis-à-vis de l'État.
Oui, on a une très forte défiance vis-à-vis de l'État. Je pense que les gens qui ont contribué sur Entendre la France veulent nous dire qu'ils n'ont plus confiance dans la capacité de l'État à faire son travail de manière efficace et économe. Quelques statistiques qui illustrent ça. On a trois quarts de nos répondants qui sont en faveur de la réduction du nombre de parlementaires, par exemple. C'est quand même très fort.
D'accord.
Et on a 85% d'entre eux qui souhaitent revoir le fonctionnement de l'administration et des services publics. Également un message fort qui est passé.
Donc défiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des services publics. Il y a aussi un rejet de la classe politique. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, en fait ?
Inquiétant, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un message qui ressort très fort et on verra comment le gouvernement le prend en compte aujourd'hui, si ça ressort dans les contributions officielles sur granddebat.fr. Mmh. Mais en effet, on a une forte défiance vis-à-vis de la classe politique. Si on prend justement la question des impôts sur lesquels on les a interrogés de manière libre, le premier sujet qui ressort, c'est le salaire et les avantages des ministres, des élus et des hauts fonctionnaires. Et donc c'est très important. Une contribution peut-être un peu exemplaire et illustrative. On a ce répondant du Loiret qui nous dit « Moi, je ne veux pas forcément payer moins d'impôts. Je suis d'accord pour payer des impôts qui vont financer des stades et des écoles.
D'accord.
En revanche, je ne veux pas que mes impôts financent le train de vie et les avantages des ministres. » Et ça, en fait, ça peut être symbolique, mais en fait, c'est très illustratif de ce que nous disent nos répondants.
Ce qui ressort aussi parmi les demandes de ces jeunes, c'est l'écologie. C'est-à-dire qu'ils veulent faire de la transition écologique une priorité nationale ?
C'est ça, le sujet de la priorité, en faire la priorité, c'est quelque chose qui ressort très fort, en particulier de la part des plus jeunes. Et en fait, le message qui est porté, c'est on peut prendre toutes les mesures que l'on souhaite, si dans quelques années ou des quelques dizaines d'années, on n'a plus de planète, cela ne servira à rien. Et donc vraiment, ce sujet de faire de la transition écologique une priorité, la priorité nationale, c'est quelque chose qui ressort très très fortement.
Et pourtant, sur le plan politique, le thème de l'écologie est très compliqué à mettre en place.
Oui, très compliqué, mais justement, c'est là où c'est intéressant. On a des mesures concrètes qui sont plébiscitées par nos répondants, notamment par exemple le principe du pollueur-payeur qui ressort de manière très forte. Beaucoup de répondants nous disent, ce sont aux grandes entreprises qui sont les plus gros pollueurs de contribuer et pas aux ménages des classes moyennes de le faire à leur place.
Donc si j'entends bien, il y a une défiance de l'État et des services publics en général, il y a une demande et une transparence autour de l'écologie comme priorité nationale et les jeunes réclament plus de justice sociale et de solidarité.
Oui, la justice sociale aussi c'est un thème qui ressort fortement, notamment via la justice fiscale. Quand on les interroge sur l'impôt, le premier thème qui ressort spontanément, c'est la lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Ils attendent justement de l'État d'introduire, de remettre beaucoup plus de justice dans cette fiscalité.
Est-ce que les priorités de ceux qui ont contribué, de ceux qui se sont exprimés, sont différentes de celles de leurs aînés, selon la lecture sur la grille que vous avez eue à travers les réseaux sociaux ?
Alors c'est un point qui est très important. Nous, on a pris le parti depuis le début, depuis le lancement d'Entendre la France, de demander à nos répondants de renseigner des critères sociodémographiques sur leur âge, leur catégorie socioprofessionnelle et même leur rapport aux gilets jaunes. Et en effet, on a des grosses distinctions qui se font, notamment sur le sujet de l'écologie. On sent que ce sont les jeunes qui sont beaucoup plus concernés sur l'écologie et ce sont les jeunes qui veulent en faire véritablement une priorité nationale, là où ce n'est pas forcément le cas pour les personnes qui sont plus âgées.
Alors on parle des jeunes, mais ceux qui ont participé sur votre plateforme ont un niveau d'éducation plutôt élevé. Ils sont représentatifs de la jeunesse ?
Alors, ils ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des Français et de la jeunesse. À minima, le vrai parti qu'on a pris, c'est de pouvoir mesurer le fait que ce n'est pas représentatif.
Vous l'assumez, ça, dès
oui, on l'assume complètement. Et en fait, c'est un sujet qui dépasse Entendre la France et qui va être clé dans la restitution du grand débat qui va être fait notamment aujourd'hui par le gouvernement et par le Premier ministre. Mm-hmm. Le sujet de la représentativité, il va se poser très fortement sur granddébat.fr. On ne sait pas qui sont les gens qui ont répondu. Donc quand bien même on a plus de 2 millions de contributions, on ne sait pas qui sont les gens qui sont derrière ces contributions, hormis leur code postal. Et donc en fait, là où le gouvernement va devoir faire beaucoup de pédagogie, ouais. C'est comment ils ont pris en compte l'ensemble de ces contributions-là et comment ils font en sorte que ce qu'ils vont restituer aujourd'hui dans les prochaines semaines représente la voix de tous les Français et est représentatif.
Non, parce que ça pose la question de l'anonymat aussi sur les réseaux sociaux. Vous nous dites on ne sait pas qui ils sont à part leur code postal. Ça peut être n'importe qui ? Comme ça peut être personne.
Oui, alors ça parle pour le granddébat.fr. Justement, c'est pour ça que nous, on a souhaité leur demander qui ils étaient, quel était leur âge, quel était leur niveau d'études, parce qu'on pense que ça nous permet d'apporter un niveau d'analyse beaucoup plus fin, une granularité d'analyse beaucoup plus fine, et du coup, de permettre de restituer des conclusions qui vont être plus précises.
Alors, votre application Entendre la France a permis de participer au grand débat depuis son smartphone, via les réseaux sociaux. Ça, c'est une modernité. C'est quelque chose qui permet aussi une transversalité. Est-ce que ça veut dire que la démocratie participative, demain, ressemblera à cette démarche ?
On espère, on pense que c'est une nouvelle manière d'apporter plus de démocratie participative dans la vie citoyenne et on pense que c'est indispensable, c'est vraiment plébiscité par l'ensemble des répondants, que ce soit via Entendre la France ou via les autres manières. Ça ne remplacera pas les réunions citoyennes qui sont de toute façon indispensables. En revanche, on pense que si on veut impliquer en particulier les jeunes dans cette vie démocratique, il faut pouvoir aller les chercher là où ils consomment, là où ils s'expriment. Et là où ils s'expriment aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux et sur Facebook Messenger.
C'est un premier pas. Jérémy Lefebvre, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le cofondateur de la plateforme internet Entendre la France.
Merci. Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, 3 mois d'échanges, près de 2 millions de contributions, on l'a pris. On vient d'en parler. Comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre pour synthétiser ce grand débat ? Réponse dans le journal de 8h avec David Doucan. Et puis dans une minute, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas et Linda Costa.
Oui,
attention.
Toujours du bien la petite histoire de Jean-Philippe Ballas.
Montez le son, on va partir à New York ce matin, caresser les guitares mythiques de l'histoire du rock. Bon réveil à tous, bonne matinée, on vous accompagne jusqu'à 9h.
Il est 7h55. Il est 7h58, Nico, c'est l'heure de la petite histoire du jour.
Un jour, j'irai à New York avec Jean-Philippe Ballas. Mais d'ici là, je préfère partager avec lui un peu de musique.
On branche les guitares.
Allez.
On branche les guitares. Allez, venez les amis, on va jouer les sales gosses dans les couloirs du Met, l'un des plus beaux et respectables musées de New York. Le Met qui s'encanaille avec une expo très rock'n'roll, plus d'une centaine d'instruments des années 50 à nos jours, des reliques jamais rassemblées et qui ont fait l'histoire de cette musique de danse de jeunes. Oui, tous ces instruments que vous avez vus de loin sur scène, et ben les voici tout près derrière une vitrine. La petite batterie de Ringo Starr des Beatles, la grosse de Keith Moon des Who, et puis des guitares, plein de guitares forcément, il y en a plein. Tiens, sous vos yeux, la guitare de Dieu en personne.
Oh oui!
Oui, c'est Eric. La guitare d'Eric Clapton, incollable Nikos. On pourrait presque la toucher. Un peu plus loin, il y a un peu le même modèle, mais joué par un gaucher cette fois, oui, ce gaucher. Nikos Aliagas est en feu dans ce studio.
Oui.
Jimi Hendrix. Et puis tant qu'à monter le son, tiens, autant le faire avec un autre Jimmy Page et un bon vieux Led Zepp.
Ah oh oui. Magnifique.
Voilà, Jimmy Page qui l'avoue lui-même, jamais il n'aurait imaginé retrouver ses instruments, tels des œuvres d'art, dans un cadre aussi solennel que le Met de New York. C'est le signe aussi que le temps passe, les amis, vous savez quoi, c'est officiel. Les mauvais garçons d'hier sont devenus des icônes respectables. Je vous ai fait un bon résumé là. Hein.
Vous, vous pouvez rester jusqu'à 9h. Toutes les 3 minutes, je mettrai un riff. Il paraît que d'ailleurs Mick Jagger se porte mieux.
Il va beaucoup mieux, il a tweeté en tout cas.
Merci Jean-Philippe Ballas. Avez-vous vu le regard presque dérangé de David Doucan qui ne comprend pas cette musique de Barbara?
Mais David Doucan est très rock'n'roll au fond.
Oui, bien sûr. Vous me connaissez Jean-Philippe.
A tout de suite.
Et d'ailleurs, le journal de David Doucan arrive dans un instant.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Et tout de suite, la météo avec un fan de Johnny Page. Hein, ouais. C'est Laurent Cabrol.
Non, lui, c'est Johnny Page. Ben, c'est pas le même.
Au risque de faire tomber l'ambiance, je voudrais dire qu'il est tombé en une semaine, la semaine dernière.
Ah oui.
3 fois plus de pluie que dans les 3 derniers mois.
Ah.
Janvier, février, mars, à Marseille et à Toulon. Mmh. Et je voudrais dire à nos amis du Midi, qui ont tant manqué de pluie, qu'il est tombé en une semaine, pratiquement la moyenne, autant que dans les 3 mois. Voilà, c'est la bonne nouvelle de la journée, sur laquelle il faut insister, parce qu'on a trop dit pendant 3 mois qu'on était en train de mourir de chaud et de sec.
Non, mais quand ça tombe d'un coup, ça noie, en
non,
fait.
Ah bon pas, non, ah, aujourd'hui, pas justement, ouais. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu d'inondation, il n'y a pas eu de victime, rien. Ce qui s'est passé, c'est que ça a beaucoup plu, il y a eu même hier des tornades, mais ça pénètre bien dans le sol et maintenant ça y est, on rattrape le temps perdu. Alors il pleuvra encore aujourd'hui. D'accord. Sur les régions de l'Est, il pleuvra encore près de l'Atlantique et je vous dirai tout à l'heure qu'il, dans des régions comme la région parisienne, la région lyonnaise, nous n'aurons pas beaucoup de pluie, même pas de pluie du tout. Température maximale entre 14 et 18.
Merci.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce lundi 8 avril. Il est 8h01. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
David Doucan est avec nous, bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La sortie du grand débat national, le Premier ministre présente ce matin une synthèse des contributions des Français, mais le moment de vérité ce sera la semaine prochaine avec les arbitrages et les décisions d'Emmanuel Macron. Les géants du numérique sont dans le viseur de Bercy, vous le savez, la taxe GAFA arrive à l'Assemblée nationale, quel sera son fonctionnement ? Explication dans un instant. Les fans du Paris Saint-Germain vont devoir attendre encore un petit peu. Paris aurait pu être sacré champion de France dès hier soir, mais non. Match nul face à Strasbourg avec une sacrée boulette de l'un des joueurs parisiens. On vous raconte tout cela à la fin de cette édition.
8h12, Vincent Hervouet, France-Rwanda, les clés d'une relation complexe. 8h15, Audrey Crespo-Maral reçoit Nadine Morano.
Europe 1.
Cela se passera à 9h ce matin au Grand Palais dans le quartier des Champs-Élysées à Paris avec notamment la moitié du gouvernement, les directeurs des administrations centrales, les Français qui ont participé aux conférences citoyennes. Le Premier ministre va présenter la synthèse des contributions au grand débat national, un discours censé résumer les attentes de nos concitoyens. Mais pour le moment de vérité, il faudra attendre au moins la semaine prochaine avec les décisions et peut-être les annonces d'Emmanuel Macron. Jean-Rémy Baudeau.
Pas de renoncement, mais pas d'entêtement. C'est la ligne qu'a annoncé le président Macron la semaine dernière lors d'un échange avec des maires. Le président affirme avoir entendu les messages envoyés par les Français à l'occasion du grand débat. La restitution du grand débat ce matin permettra de mettre en lumière l'importance pour les Français des thèmes de la justice fiscale, mais aussi du pouvoir d'achat, de la santé ou de l'écologie qui représente à elle seule une contribution libre sur 5. Après ces comptes rendus, tout le monde aura désormais le regard tourné vers l'Élysée. Dans la majorité, tous expliquent que le président est le seul à avoir la clé de la sortie de ce grand débat. Ça va être de la haute voltige, tant les attentes sont parfois contradictoires, explique ainsi un député macroniste. L'exécutif conscient du risque de déception, il faudra que ce risque soit contré par la puissance des annonces, veut-on croire dans l'entourage du Premier ministre. Matignon, tout comme l'Élysée qui le répète, on ne va pas faire du clientélisme quand un ministre précise... Ça ne pourra pas être la distribution des milliards. On n'a pas de baguette magique.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. J'ajoute que les mesures que prendra Emmanuel Macron risquent de ne pas être toutes présentées lors d'un grand discours mi-avril, mais au contraire distillées jusqu'à l'été.
La taxe GAFA arrive à l'Assemblée nationale cet après-midi.
Oui, il s'agit d'inventer un système d'imposition des géants du numérique, notamment américains, Google, Amazon, Facebook et Apple. Mais les entreprises françaises du secteur comme Le Bon Coin ou Se Loger seront elles aussi concernées. Anne-Laure Jumet.
Sont concernées les entreprises du numérique qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde et plus de 25 millions d'euros en France. Et là, on parle de 3 activités bien précises, la publicité ciblée, la revente de données et la mise en relation sur Internet. Des activités qui seront donc taxées à hauteur de 3%. Au total, une 30aine d'entreprises sont concernées. Mais le système a ses limites. Impossible en effet de cibler uniquement les géants américains du web. Cette taxe frappe donc aussi des entreprises européennes et françaises ou d'origine française rachetées par des étrangers. Parmi elles, on retrouve le spécialiste de la publicité en ligne Criteo, Le Bon Coin, leader des petites annonces ou encore le site immobilier Se Loger. Avec cette taxe, l'État compte récupérer 400 millions d'euros cette année et un peu plus les années suivantes, en tablant sur une hausse du chiffre d'affaires des sociétés concernées. Cela dit, Bercy précise bien qu'il s'agit d'une solution temporaire et que cette taxe prendra fin dès qu'on aura trouvé un accord similaire au plan européen ou international.
Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Sachez que Washington conteste cette démarche. Les États-Unis la jugent discriminatoire à l'égard des multinationales basées sur leur sol.
Le chaos du Brexit et ses conséquences en Écosse.
Eh oui, puisque les Écossais à l'époque avaient voté à 62% contre le Brexit. Et la perspective d'une sortie sans accord relance le débat sur l'indépendance de l'Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni. Reportage à Édimbourg d'Anaïs Cordoba.
Quand il parle du Brexit, la voix de James tremble de colère. Ce caviste d'Édimbourg importe presque tous ses produits du continent et a déjà été durement impacté par la baisse de la livre sterling.
Si la livre sterling continue de baisser, le vin français, les bières belges et allemandes vont devenir trop chers. Plus personne ne pourra en acheter, surtout si on rentre en récession. Mes affaires et l'avenir de mes enfants dépendent de l'Europe.
Nous sommes complètement ignorés par Westminster, poursuit James, qui, comme 62% des Écossais, a voté contre le Brexit. La sortie de l'Union européenne, concentrée entre les mains du gouvernement conservateur à Londres, provoque un sentiment d'impuissance en Écosse qui réveille les velléités d'indépendance. Fiona Hyslop, ministre écossaise des Affaires extérieures.
La situation actuelle de l'Irlande a montré que l'Union européenne est une union d'États égaux où les États sont indépendants mais ils peuvent être protégés et soutenus par les autres membres. Nous, l'Écosse, on est dans une union où on est loin d'être égaux. Notre voix n'est pas écoutée.
Au dernier sondage, si le Brexit a lieu, 43% des Écossais voteraient pour l'indépendance et 37% pour rester dans le Royaume-Uni. Édimbourg, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Un sommet européen se tiendra ce mercredi à Bruxelles. Les 27 décideront de consentir ou non à la demande de Theresa May d'un report du Brexit jusqu'au 30 juin. Donald Trump aux États-Unis a limogé sa ministre de la Sécurité intérieure. Le président américain a mis fin aux fonctions de Kirstjen Nielsen. Dans un tweet, il faut y voir sa volonté de durcir encore sa politique d'immigration.
Europe 1.
À suivre dans le journal, le concours des professeurs des écoles qui commence aujourd'hui. De plus en plus de salariés du privé se reconvertissent. On vous dit tout dans quelques instants. Tout de suite.
Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan. Le concours des professeurs des écoles commence aujourd'hui.
Oui, ils sont des dizaines de milliers de candidats et parmi eux, 20% sont des salariés du privé en reconversion. Avec nous, Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Vous avez, Virginie, rencontré Stéphanie qui change de vocation.
Oui, alors Stéphanie va commencer ce matin par déposer ses affaires dans la chambre d'un hôtel premier prix du parc des expositions de Villepinte où se déroulent les épreuves dans une très grande salle. Elle l'a louée pour être sûre d'arriver à l'heure. Elle a 42 ans, Stéphanie, elle est mère de 3 enfants et elle bachote depuis plusieurs mois la grammaire et les problèmes de maths. C'est un changement de vie radical après 18 ans comme cadre marketing dans une grande agence à la tête d'une équipe de 8 salariés. Alors par la suite, cet ex-manager se verrait bien diriger une école. Pour l'instant, elle s'apprête ce matin à plancher sur l'épreuve de français.
Ça s'oublie pas en fait. J'ai passé un concours blanc il y a un mois. J'ai gratté 8 copies doubles et en fait j'ai eu l'impression d'être au bac comme si c'était hier. Pythagore et Thalès, on les a pas oubliés. J'ai passé 18 ans à bosser tard, à bosser dur, à avoir des objectifs, à résister à la pression. J'avais envie de vivre quelque chose d'utile, de parler d'histoire, de géographie, de maths et d'éducation morale et civique et pas de marketing.
Alors le bon côté du marketing, c'est qu'elle a fait beaucoup de maths, de statistiques dans son ancienne carrière, ça devrait l'aider. Elle a aussi un très bon niveau de français. Avec ce profil, Stéphanie ne devrait pas avoir trop de mal à décrocher le concours qui affiche un taux de réussite de 70% dans l'Académie de Versailles, tant les besoins sont énormes.
Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1, merci à vous Virginie.
Football, pas de titre de champion de France hier.
Oui, pour le Paris Saint-Germain, tenu en échec au Parc des Princes par Strasbourg. Les deux équipes ont fait jeu égal de partout, notamment à cause d'une énorme boulette. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour David.
Alors Jérôme, décrivez-nous cette scène. Elle a évidemment déjà fait 3 fois le tour des réseaux sociaux.
Je vous présente Eric Choupo-Moting, 30 ans. Oui, c'est un attaquant, mais il a signé le geste défensif de la saison, emporté par l'élan de sa course vers le but adverse. Il a stoppé sur la ligne du but strasbourgeois un ballon frappé par un coéquipier parisien et qui filait droit au fond du but alsacien. Involontaire, bien sûr, mais pour le malheureux joueur, l'onde de choc est mondiale. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Choupo-Moting, se demande ce commentateur. Jamais vu une chose pareille. Cascade de moqueries à l'échelle planétaire. Choupo-Moting sauve Strasbourg, sourit un site indonésien. Miss of the Century, le raté du siècle, écrit Fox Soccer aux États-Unis, un raté que CNN notamment diffuse aussi ce matin. En France, on lit beaucoup Choupo-Ba, Choupo-l'artiste sur les réseaux sociaux. Ouais, on peut saluer le jeu de mots.
Tout le monde fait le malin.
Et les supporters parisiens ne sont pas les derniers à chambrer.
Choupo, il est exceptionnel. Faut être serein pour sauver un ballon sur la ligne comme ce soir. Hein.
Geste défensif exceptionnel. Non, je sais pas ce qui se passe dans la tête d'un joueur à ce moment-là pour faire ça. C'est vraiment une saison où il faut oublier la fin de saison, quoi. C'est vraiment dur.
Alors, faut quand même saluer le courage d'Éric Choupo-Moting qui est venu devant la presse s'excuser après la rencontre. Oui. Et il a reçu le soutien public de ses coéquipiers. Donc, Kylian Mbappé qui lui a écrit « On reste un gros puni et on te soutiendra jusqu'à la fin ».
Merci à vous, Jérôme Lacroix. Et puis, relativisons, ce n'est que partie remise. Dimanche prochain, Lille-PSG, vous le confirmez. Et il suffira d'un nul pour que les Parisiens soient sacrés champions de France. Est-ce que, Nikos, vous croyez au karma ?
Ça dépend si vous êtes joueur au PSG en ce moment, c'est pas compliqué en l'occurrence. Mais oui, moi je crois que tu as ton chemin.
Il y a un karma. Bon, alors écoutez cela. La chaîne britannique, la BBC, rapporte qu'un braconnier était venu chasser le rhinocéros en Afrique du Sud. Eh bien, cet homme a été piétiné par un éléphant, puis dévoré par des lions.
Il y a plus de karma.
Une équipe de recherche du parc national Kruger a été chargée de ramener le corps, mais ils n'ont retrouvé que son crâne et un pantalon déchiqueté. Je vous rappelle que le rhinocéros est une espèce protégée.
Voilà, votre karma, en revanche, il est zen.
Oui, il faut être zen.
Donc je vous dis à demain, 8h.
À demain.
Merci Nikos. David Doucan.
La matinale d'Europe 1.
Nikos Aliagas.
8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale. Nikos avec Vincent Hervouet.
Bonjour Vincent.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Désormais, le 7 avril, la France commémorera le génocide des Tutsis. Emmanuel Macron l'a annoncé hier, 25 ans après la tragédie rwandaise.
Ouais, il ne dit pas le génocide rwandais, mais le génocide des Tutsis. Il n'est pas prévu de commémoration pour les Hutus, les civils Hutus qui ont été massacrés par le Front patriotique rwandais et dont il est mal vu d'évoquer le souvenir, ou les Hutus massacrés au Congo voisin, où l'armée patriotique rwandaise a poursuivi le combat. Cette guerre des Grands Lacs a fait des millions de morts. Ils n'ont pas eu droit à un tribunal international, aux querelles d'historiens, à la compassion universelle. Pas de monument, pas de jour anniversaire. Ils resteront dans l'ombre, une deuxième mort. De toutes les tragédies de l'Est africain, Emmanuel Macron ne veut connaître que le génocide des Tutsis de 1994. Rien avant, rien après. Et ça n'aide pas à répondre à la question « La France a-t-elle quelque chose à se reprocher ?» Quelque chose d'autre que d'avoir échoué à imposer le partage du pouvoir au Rwanda. Ce sont les accords d'Arusha. Ils ont retardé le grand règlement de compte. Il a été d'autant plus sanglant. Emmanuel Macron applique aux Tutsis le même traitement qu'aux Arméniens il y a 6 mois. Il a décrété le 24 avril journée du génocide arménien. Pour les Rwandais, ce sera le 8. En avril, on se découvrira beaucoup. La différence, c'est que les Arméniens ont attendu un siècle et le président a pris sa décision. Décision au milieu d'eux, à Erevan, en Arménie, alors qu'il ne s'est pas rendu hier au Rwanda. Cet empressement et cette absence ressemblent à un aveu.
Le président avait pourtant, pour représenter à Kigali, le député des Côtes d'Armor, Hervé Berville.
Alors c'est un Tutsi rescapé du génocide. L'orphelin a été sauvé par l'armée française. Son histoire est édifiante. Elle raconte la résilience, l'intégration, l'ascenseur social, la République, la Bretagne aussi. La France pourrait en être fière, au lieu de cultiver la haine de soi, la honte de tout ce qu'elle a fait. Qu'elle fait et qu'elle a tenté de faire en Afrique, la dénonciation de la France-Afrique est une forme de narcissisme suicidaire. La France est le seul pays occidental à commémorer le génocide Tutsi. Elle est aussi le seul à envoyer comme ambassadeur dans un pays africain un ambassadeur africain qui représentait son pays en France. Emmanuel Macron vient de nommer en Ouganda un ami qui était ambassadeur du Bénin à Paris jusqu'en 2016. Un binational est un Français à part entière, d'accord. Mais c'est sans précédent d'incarner officiellement la France après avoir représenté un autre pays. Alors c'est le fait du prince, c'est une transgression, on peut y voir une allégorie des élites mondialisées qui voltigent au-dessus des frontières et des nationalités comme s'il s'agissait de concepts périmés. On peut y voir aussi l'illustration ultime d'un vieux slogan, l'Afrique aux Africains.
Vincent Hervouet, c'est son édito international.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans deux minutes, Audrey Crespo-Maras et Nadine Morano, votre invité.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Alors qu'on attend les restitutions du grand débat, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, a déclaré hier dans le journal du dimanche « Je tends la main au Premier ministre, travaillons ensemble, sortons des postures sectaires ». On verra si elle aussi tend la main aux anciens Républicains, Renégat, Philippe Lemaire, Darmanin. Nadine Morano, députée européenne, numéro 4 de la liste LR aux Européennes, sera mon invitée.
A tout de suite Audrey.
Sur Europe 1 avec Nikos Aliagas, il est 8h16. Il est 8h19, Nikos Aliagas.
La députée européenne des Républicains, Nadine Morano, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Nadine
Bonjour.
Morano.
Bonjour.
Clap de fin du grand débat, 2 millions de contributions. On va enfin savoir ce que veulent les Français et en quoi l'exécutif va les satisfaire ou non. Vous avez hâte ?
Alors moi je vais vous dire, on sait très bien ce qu'attendent les Français, on sait comment a commencé cette crise, par une taxation massive des carburants, par une hausse de la CSG sur les retraités, par une désindexation des retraites sur les retraités, et les Français attendent qu'Emmanuel Macron répare ses fautes. Ce sont des fautes politiques majeures qu'a fait Emmanuel Macron.
Qu'il peut encore réparer.
Tout simplement parce que quand on supprime l'ISF, et quand on matraque les petits retraités de taxes, eh bien, il faut comprendre que c'est ça qui a engendré cette colère massive dans le pays.
La suppression de l'ISF, la droite est pour aussi. Hein.
Oui, mais vous voyez, j'ai entendu M. Darmanin, que vous avez qualifié comment tout à l'heure, de renégat dans votre...
Ah, c'est vous qui l'avez qualifié
de tel,
Darmanin.
Non, moi, je n'avais jamais dit ça. Moi, je pense plutôt
traître,
qu'il trahit même ses propres convictions quand je pense qu'il ose se prétendre de la droite populaire. Jamais la droite populaire ne s'en serait pris aux retraités que nous avons toujours protégés et préservés. Ce que nous demandons, ce que nous voulons, c'est la réindexation des retraités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près de 9 millions de retraités ont perdu en pouvoir d'achat sur un an environ 400 euros par an.
La réindexation, Nadine Morano, la réindexation, Gérald Darmanin dit que ça pourrait coûter jusqu'à 3 milliards. Vous les trouvez où ces 3 milliards? Puisque, comme le gouvernement, vous ne souhaitez pas rétablir l'ISF qui rapporte justement 3 milliards.
Alors, vous savez, M. Darmanin, dans l'interview qu'il a donnée dimanche, à la question « Le gouvernement veut-il réindexer les petites retraites sur l'inflation ?» il répond « La question peut être posée, mais il faut savoir donc quel est le coût peut être posé. Je ne dis pas que la question, moi, peut être posée. Je dis que la question doit être imposée, c'est-à-dire qu'il faut réindexer les retraités sur l'inflation. C'est indispensable pour leur pouvoir d'achat. Et moi, je vais vous dire, la retraite, ce n'est pas une allocation, ce n'est pas un don, c'est un dû. Il faut bien le comprendre, c'est un dû pour ces personnes qui ont bossé toute leur vie et qui ont droit à leur retraite.
Mais ces 3 milliards, vous les trouvez où? Puisque vous ne rétablissez pas l'ISF.
Non mais attendez, nous avons présenté un plan de réduction des dépenses publiques de plus de 20 milliards d'euros. Puis moi je vais vous dire une chose, quand vous regardez le coût de la politique migratoire dans notre pays, il faut savoir que rien que l'accueil de ce qu'on appelle les mineurs étrangers arrivés en situation irrégulière de notre pays, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés en politiquement correct, nous coûte 2 milliards d'euros chaque année. Eh bien, moi, je peux vous dire que dans cette politique migratoire qui nous coûte très cher à notre pays, vous trouvez de quoi répondre à la préoccupation de nos retraités.
Alors
qu'ils gèrent la politique migratoire de manière moins coûteuse et qu'ils ne maltraitent pas comme ça nos retraités.
Puisque vous avez l'interview effectivement de Gérald Darmanin au journal du dimanche sous les yeux hier, il disait donc dans cette interview qu'il était favorable à une baisse de l'impôt sur le revenu pour la classe moyenne, alors que Laurent Wauquiez réclamait une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu. Vous êtes sur la même ligne que le gouvernement, là.
Mais tant mieux, j'attends. J'attends de voir. Parce que nous, voilà des mois que nous réclamons cette baisse d'impôt sur le revenu. Mais encore une fois, nous sommes logiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas promettre de baisse d'impôt sur le revenu si on ne baisse pas les dépenses publiques. Or, moralité, quand je lis cette interview, il n'y a pas une piste de réduction des dépenses publiques. Il y a des promesses, des miroirs aux alouettes. Quand on nous dit encore une fois que la taxe d'habitation va être supprimée pour tous, mais encore une fois, quand vous regardez l'échéance, c'est en 2022. Donc, au moment où il y aura les élections présidentielles. Donc, il reporte. Mais
alors,
le fait aujourd'hui,
puisque vous partagez,
c'est que les Français
Nadine
attendent des actions pour leur pouvoir d'achat.
Ça devrait plus tarder, puisque vous partagez les positions du gouvernement sur l'ISF et l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il n'est pas temps de sortir des postures sectaires et de tendre la main à Édouard Philippe ?
Ben, nous n'avons pas cessé que de tendre la main à Édouard Philippe et que de faire des propositions. Ben, écoutez, notre opposition, elle est toujours constructive. Nous ne faisons pas une opposition de blocage. Nous avons fait à chaque fois des propositions. Nous avons d'ailleurs alerté le gouvernement quand Édouard Philippe a pris cette mesure assez stupide de vouloir mettre ce niveau de 80 km/h partout en France sur nos routes nationales, alors qu'il fallait adapter cette limitation de vitesse à des secteurs accidentogènes et par département. Nous avions alerté que ça allait provoquer de la colère. Nous avons alerté sur la hausse des taxes. Nous avons demandé cette suppression des taxes. Nous avons alerté aussi quand le gouvernement a choisi de désindexer les retraites de l'inflation. Nous avons alerté. À chaque fois, on se trouve face à un mur. La réalité, c'est que nous sommes dans une mode de gouvernance verticale, sectaire, et qui n'entend pas. Et qui n'entend rien. Ni les Français, ni l'opposition, d'ailleurs.
Les postures sectaires, c'est le mot employé par Laurent Wauquiez lui-même dans le journal du dimanche. Oui. Je tends la main au Premier ministre, travaillons ensemble, sortons des postures sectaires. Êtes-vous prête, vous, à tendre la main à Bruno Le Maire, à Gérald Darmanin ?
Nos propositions sont une main tendue. Depuis le départ, nous n'avons fait que ça, que de tendre la main. Et on retrouve quoi en face ? Une porte fermée ? Quand il fait des propositions sur le RSA en contrepartie de temps de travail, est-ce que vous croyez qu'il a obtenu pour l'instant une expérimentation dans sa région ? Notre président Laurent Wauquiez, pour l'instant, rien. Donc en fait, c'est ça la réalité, c'est qu'ils font des centaines d'heures de débats partout en France, travail qu'ils auraient dû faire avant les élections présidentielles, mais en même temps, on voit bien qu'ils sont sourds aux revendications les plus essentielles. Comme pour nos retraités, comme j'ajoute, pardon de le dire, mais nos familles. Parce qu'il faut réindexer aussi les allocations familiales. Il faut relever le plafond du quotient familial. La natalité, depuis 2 ans maintenant, est en baisse. On n'avait jamais vu ça en France. Nous, quand nous étions au pouvoir, nous avons toujours préservé et les retraités, et les familles, et les classes moyennes. Aujourd'hui, les cibles de ce gouvernement, ce sont les retraités, les familles et les classes moyennes. Et cette politique qui a été menée depuis 2 ans, c'est une politique pour les très riches, nous n'en voulons pas.
Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Édouard Philippe ont longtemps milité dans le même parti que vous. Ça ne vous fait pas plaisir que vos frères d'armes soient au poste clé du gouvernement ?
Ne les appelez pas des frères d'armes quand vous voyez que Bruno Le Maire fait le contraire de ce qu'il a plaidé pendant 1 an et demi de campagne pour la primaire des élections de la droite, puisqu'il était favorable à la baisse de la CSG. Voilà que, ministre, il met en œuvre la hausse de la CSG. Bon, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Moi, je suis toujours fidèle à mes convictions.
Nadine Morano, vous reprochez à Gérald Darmanin, à Bruno Le Maire, d'avoir changé de camp. Mais ils ne sont pas les seuls. Vous n'avez pas l'impression que Nicolas Sarkozy a lui aussi changé de camp ?
Pas du tout. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a le Nicolas Sarkozy qui respecte sa fonction institutionnelle, c'est-à-dire celle d'ancien chef de l'État, fidèle à ses valeurs de participer à des commémorations pour les anciens combattants,
mais il
pour les résistants.
Mais il s'affiche sourire avec Emmanuel Macron. Il n'a jamais un mot aimable pour Laurent Wauquiez, des Européennes.
Ne vous inquiétez pas, il y a d'abord ce rôle institutionnel d'ancien président de la République et il y a aussi ce que pense Nicolas Sarkozy et cette fidélité qu'il a à sa famille politique.
Mais il ne l'affiche pas, il ne s'affiche pas aux côtés de Laurent Wauquiez, de François-Xavier Bellamy.
Il était la semaine dernière avec des parlementaires de notre famille politique à l'invitation d'Éric Ciotti. Ils ont beaucoup échangé. Je fais partie de ceux qui le voient aussi très régulièrement. Il s'est exprimé lui-même lorsqu'il y a eu sur la place de la République la manifestation contre l'antisémitisme en disant qu'il n'y avait plus d'autorité dans ce pays, plus d'autorité et qu'il réclamait un retour à l'autorité. Ne vous inquiétez pas, Nicolas Sarkozy ne se trompera pas de famille politique le 26 mai prochain. Et je pense que d'ici là, il nous donnera évidemment des signes et des signes aux Français sur le projet qu'il compte soutenir au cours de ces élections.
Non. Petit appel pour finir. Merci Nadine Morano.
Merci à vous.
Merci mesdames, c'était l'interview politique de la matinale avec Audrey Crespo-Mar.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol. À 8h30, l'essentiel de l'info. La cantine à 1€ dans certaines écoles. Démarrage à la fin du mois. Qui est concerné ? Comment va fonctionner le dispositif ? On vous dit tout.
Une belle matinée avec Nico Saliagas sur Europe 1. Il est 8h27. La Monnaie de Paris vous présente ses pièces de 10€, argent, pièces d'histoire. Avec la participation de Stéphane Bern, cette collection retrace l'histoire de France à travers 9 monnaies historiques du patrimoine français. Pour chaque pièce achetée, 1€ sera versé à la Fondation du patrimoine pour la mission patrimoine de Stéphane Bern. Disponible à la poste et sur monnaiedeparis.fr. Une série limitée à offrir ou à s'offrir dès maintenant. Europe 1. À
suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
David Abiker, bien sûr.
Bonjour Nikos.
On dirait un slogan de pub.
Ça va. Ce matin, à la une de la presse, bah, vous avez des solutions simples et des problèmes complexes. Je vous parlerai des deux. Par exemple, la cantine à 1 euro ou une invention qui permet de détecter le glyphosate dans les champs. Enfin, voilà quoi.
Dites-moi, ça existe ?
Bah oui, ça existe.
Allez, à tout de suite pour la revue de presse. 8h40. L'homme qui n'a peur de rien. Nicolas Canteloup, le chemin est de retour pour bien commencer la semaine. Ce sera la revue de presse.
Mais tout de suite, on retrouve Laurent Cabral-Nicos pour la météo.
N'a pas peur du ciel qui pleut.
Non, et vous me faisiez observer tout à l'heure, pour justement, mon cher Nicos, vous me faisiez observer que lorsqu'il pleut, ça ruisselle sur le sol, ce qui pleut beaucoup après une période de sécheresse.
C'est ça.
Et ce qui se passe en ce moment, c'est justement parce que la nature a bien fait les choses, sont des pluies par à coup, des pluies par épisode. Donc, elle laisse le temps, la nature, à l'eau de s'infiltrer avant de redonner encore un petit peu de pluie. Et c'est ce qui se passera aujourd'hui. Il pleut, il pleuvra sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, le Dijonais, et puis ça va se calmer, puis les pluies vont aller vers l'Auvergne, vers la Bourgogne, le Nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, du côté de l'Atlantique, c'est de la pluie aussi qui arrive. Et elle arrive sur l'Aquitaine, le Béarn, le Poitou-Charente, la Vallée de la Loire, la Bretagne, autant de régions où vous devez vous abriter aujourd'hui, chers amis. Et puis, sur la Normandie, sur Paris, l'Orléanais, le sud du Massif central, Languedoc-Roussillon, le Rhône, ce sont des nuages, mais pas de pluie en principe, sur Paris peut-être en soirée. Sur la région PACA, eh bien, nous aurons un temps ensoleillé. Les températures aujourd'hui vont s'échelonner entre 13 et 19 degrés, ça c'est la bonne nouvelle, car ce matin, il fait froid, il y a encore des gelées dans la journée, 13 à La Rochelle, 14 à Nantes, 15 à Lille, 16 à Lyon, 17 à Paris, Marseille et Bourges et 19 à Narbonne.
Merci Laurent Cabral, à tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Lundi 8 avril, toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nikos Aliagas.
La retraite n'est pas une allocation, c'est un dû. Dixit Nadine Morano sur Europe 1, elle était l'invitée il y a quelques instants d'Audrey Crespo-Mara. Nadine Morano qui souhaite que le gouvernement gère la politique migratoire de manière moins coûteuse pour ne pas maltraiter nos retraités. La cantine à 1 euro pour une dizaine de milliers d'élèves, mesure phare du plan pauvreté lancé ce mois-ci. 10 000 communes sont concernées par le dispositif voulu par Emmanuel Macron en septembre dernier. Écoutez les précisions de Christelle Dubos, elle est la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Solidarité.
Je pense notamment aux familles monoparentales dont la maman ou le papa recherchent un emploi et sont en dessous d'un certain seuil de ressources. Plutôt que d'aller chercher les enfants tous les midis, vont permettre à ces enfants de rester manger à la cantine, d'avoir un repas équilibré bien évidemment, mais aussi de pouvoir bénéficier des activités et d'être avec leurs copains et copines entre midi et deux, à passer un temps aussi avec eux. C'est aussi de la socialisation des enfants.
Christelle Dubos, jouée par Romain Oquet pour Europe 1. Le gouvernement présente les conclusions du grand débat national ce matin au Grand Palais à Paris. Édouard Philippe s'exprimera à midi. 500 personnes vont assister à ses conclusions. Le projet de taxe GAFA à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui, il s'agit de taxer les activités en France des géants du numérique. Elle doit aider à financer les 10 milliards d'euros des mesures annoncées en décembre dernier par le chef de l'État en réponse à la crise des Gilets jaunes. Sans surprise, les actionnaires de Nissan ont révoqué Carlos Ghosn après 20 ans de règne. Par ailleurs, sa femme a quitté le Japon. Elle en appelle au président de la République pour faire sortir son mari de prison. Un mot de football, les Parisiens tenteront d'obtenir leur titre de champion de France dimanche prochain à Lille, puisqu'hier soir, ils ont été tenus en échec par Strasbourg au Parc des Princes, 2-2.
La Caisse d'épargne vous présente la revue de presse, Caisse d'épargne vous être utile. Et la revue de presse est avec David Abiker, Nikos.
À la une ce matin, David, des solutions simples et des problèmes complexes.
Je commence par les problèmes complexes qui font la une du Figaro avec ces entreprises françaises qui se préparent en réfléchissant à un Brexit dur. Ce sont aussi 40 enquêtes non élucidées à la une du Parisien aujourd'hui en France et qui intéressent les policiers pour leur lien avec Nordal Lelandais. Complexe également ce grand débat dont il faut aujourd'hui faire la synthèse. Édouard Philippe va dévoiler les attentes des Français, titre le Parisien aujourd'hui en France. Et maintenant, que vont-ils faire, s'interroge Vaucluse Matin, tandis que le Midi Libre intime à Emmanuel Macron d'être à la hauteur. Synthétiser le grand débat, un problème complexe qui voisine toujours à la une du Midi Libre, avec une solution simple. Le petit déjeuner gratuit à l'école ou encore la cantine à 1 euro pour le courrier Picard. Une autre solution simple, baisser encore les impôts. Ça a l'air simple, mais c'est plus compliqué que ça. C'était la une du journal du dimanche hier matin. Les solutions simples, ça peut être aussi une invention, comme cette alarme à pesticides conçue par deux chercheurs de l'université de Bourgogne. Elle se met à clignoter, explique le bien public, pour prévenir un salarié agricole ou un promeneur qu'une parcelle a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire. Vous l'aurez compris, les solutions simples voisinent ce matin dans la presse avec les usines à gaz.
Et dans les journaux, les éditorialistes reviennent sur la difficulté de faire la synthèse de ce fameux grand débat.
Et oui, un exercice compliqué, juge Bertrand Menel du Courrier Picard. Restituer en 3 heures les 1500 pages de synthèse du grand débat lancé il y a 3 mois. Tout ça dans un contexte qui ne laisse guère de marge de manœuvre au pouvoir. Et ce sera d'autant plus difficile, poursuit Jean-Michel Bretonnier dans La Voix du Nord, que le Premier ministre devra ne pas trahir la parole foisonnante des Français. Préparer le terrain aux annonces du président. Montrer qu'il a été à l'écoute tout en sachant qu'il décevra une partie des citoyens. Dans Ouest France, Stéphane Vernet sait déjà que cette synthèse ne réglera rien. Une consultation ne produit pas de solution attendue, qu'elle a pour seul objet d'éclairer ceux qui décident.
David, vous avez dit attendu que vous prenez pour un juge,
oui. Presque. Ouais. C'est exactement ça, votre honneur. Comme pour le grand débat, le public attend toujours plus d'explications des décisions de politique, mais aussi de justice, explique ce matin le Figaro. Pour clarifier ses arrêts, la Cour de cassation va donc renoncer à ces fameux attendu que, et ce à compter du 1er octobre prochain. Attendu que ce n'était pas toujours très clair, attendu que les arrêts étaient difficiles à traduire dans d'autres langues, attendu que le style direct est plus simple pour le public. Un arrêt de la Cour de cassation s'articulera désormais non plus avec des attendus que, mais prévoira l'exposé des faits et des procédures, l'examen de ce qui est critiqué et la décision. Objectif, ne plus se casser la tête quand on lit la Cour de cassation.
Et dans la presse ce matin, David Abiker, ils sont nombreux à proposer des solutions simples.
Exemple, avec la cantine à 1 euro, voilà une mesure politique simple et lisible pour nos concitoyens. Exemple, avec le smartphone pour remplacer le badge d'accès dans l'entreprise, au parking ou à la cafétéria. 20% des entreprises le proposeront bientôt à leurs salariés, selon une étude Gartner publiée dans les pages Écho du Parisien aujourd'hui en France. Exemple, avec les Suisses qui draguent les salariés français de la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, en proposant du boulot mieux payé sur les emballages du pain vendu dans les boulangeries de la région. Information du Dauphiné Libéré reprise ce matin par Le Parisien. Mais la solution simple du jour, on la doit à nos amis belges qui, depuis quelques jours, recyclent l'eau qui jaillit continuellement du petit mannequin Peace. Vous savez, petit garçon qui fait pipi à Bruxelles, près de la Grand Place. La fontaine vieille de 400 ans envoyée directement à l'égout, nous dit l'AFP, 1500 à 2000 litres d'eau par jour. Une anomalie réparée par l'installation d'une simple gouttière qui permet désormais au mannequin Peace de faire ce qu'il a à faire en circuit fermé et de manière éco-responsable. Quand c'est simple, il n'y a pas de débat.
C'est clair comme de l'eau de roche. Merci beaucoup. C'était David Abiker pour la revue de presse.
C'était la revue de presse avec la Caisse d'épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Ne bougez pas si vous voulez commencer la semaine dans la bonne humeur. Il arrive, le pape de l'imitation et de la mauvaise foi. Nicolas Canclot et sa revue de presse. À tout de suite.
Avec Nico Saliagas sur Europe 1. Il est 8h38. Il est 8h40, la revue de presse avec Optimum, 1400 conseillers immobiliers pour louer, vendre ou acheter avec le sourire.
D'abord, bonne fête Julie.
Oui, bonne fête.
Du fond du cœur, que vous ayez la santé et le regard solaire et cette voix inoubliable. Et celui qui va vous faire votre fête, c'est lui, Nicolas Canteloup.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et Nadine Morano.
Nadine Morano est mon invitée. Aujourd'hui, le clap de fin du grand débat avec la synthèse que l'on attend d'Edouard Philippe. Quel est votre regard là-dessus, Madame Morano?
Non mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, je sais très bien ce que pensent les Français. J'ai pas besoin d'un grand débat, Madame Crespo-Mara. Il faut que Monsieur Macron... répare ses fautes. Quand j'entends Monsieur Darmanin, que vous appelez, je sais plus comment, sur votre antenne, là, l'autre con, bon bref... Tout le monde a compris qui c'était. Qui se permet, pardonnez-moi, de tabasser les petits retraités qui ont bossé toute leur vie. Parce que la retraite, c'est pas une allocation, c'est pas un don, c'est un dû. Voilà. Alors excusez-moi, quand vous me demandez où on va trouver les 3 milliards pour les retraites, eh bien moi je vais vous dire une chose. Les migrants, ils coûtent 2 milliards d'euros pour leur bateau de merde. Franchement, alors moi je vais vous dire une chose. On n'est pas dans une opposition de blocage. On est dans une opposition constructive, une opposition de flingage, de d'aboyage, oui de désingage, oui d'allumage. Et alors Nicolas Sarkozy, n'allez venez pas me chercher là-dessus, hein, Nicolas Sarkozy qui se retrait du côté de Macron, mais pas du tout, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'il y a deux Nicolas Sarkozy. Il y a Nicolas Sarkozy qui inaugure les chrysanthèmes, et puis il y a Nicolas Sarkozy, le politique. Et je vais vous dire même une chose, puisque vous les mouchez, eh bien il y en a trois. Il y a même le Nicolas Sarkozy, Paul Bismuth, et celui-là vous l'avez oublié. Alors allez pas me chercher là-dessus. Vous avez... Et puis ne m'énervez pas là-dessus, parce que, vous voyez, j'ai eu la chance ce matin, je suis calme, et vous allez finir par m'énerver. Voilà. Merde.
Respirez, Nadine Morano. Merci à toutes les deux. Allez, très vite, le titre principal de l'actu avec vous, Nico.
Ouais, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fausse round, c'est la Sainte Julie.
Oui, oui.
Bonne fête à toutes les Simone. Pardon, les Julie. Oui, parce que ça correspond en fait. Quand c'est Julie, voilà. Mais plus à notre Julie nationale. Les autres, on s'en fout un petit peu. Notre petite actu, mais non, je plaisante. Wow, wow, c'est l'humour. Notre petite actu à côté de la Sainte Julie, qui est quand même l'info la plus importante de la journée, c'est le lancement des cantines à 1 euro à l'école. Ah. La semaine dernière, c'était le lancement des cantines à 1 euro dans les EHPAD. Des EHPAD, pardonnez-moi. Bonne chance, les enfants, et bon appétit à vous, July.
Merci, Nikos. Allez, on en vient au véritable événement de la journée. C'est bien sûr Édouard Philippe au Grand Palais. Bonjour, Édouard Philippe.
Oui, bonjour. Et bonne fête à Julie.
Oui, merci. Ah, merci, c'est, hein, c'est
je,
bon.
Je suis plus, plus cheveux jaunes pour vous dire que j'ai les jaunes. Je vous apprécie. Disons, j'entends votre titre, ça claque, Édouard Philippe au Grand Palais.
Ah ouais.
On dirait Jack, c'est vrai, on a l'habitude de Giacometti au Grand Palais, Picasso au Grand Palais, là, Édouard Philippe au Grand Palais. On a l'impression que le grand débat et les gilets jaunes, c'est une œuvre d'art, hein, c'est vrai. Enfin, plutôt de l'art contemporain, hein, parce que ça nous a quand même coûté 10 milliards pour pas grand-chose.
Alors pourquoi ce choix du Grand Palais, hein, le choix du lieu qui a été critiqué, hein.
Alors, bonne question. Alors, parce qu'on te fait tout en grand. Ah. Un grand débat,
oui.
Un grand palais, mm-hmm. Un grand dadé pour l'animer. Ouais, parce que grand dadé, c'est le mot amical, c'est comme ça que m'appellent mes ministres qui me respectent, mais qui se foutent aussi un peu de ma gueule. Mais qui me respectent, mais qui se foutent quand même un peu de ma gueule.
Alors, quid des solutions pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, Édouard Philippe?
Alors, quid?
Quid. Quid. Quid.
Ça me rappelle monsieur Cohen qui dit ça.
Oui.
Oui. Vous en souvenez, monsieur Cabral?
Oui, je m'en souviens.
Alors, vous êtes la mémoire d'Europe 1. Alors, les solutions, parce que c'est ça qui intéresse les Français, les solutions.
Oui, oui.
Les solutions, alors les solutions, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas moi. Hein, les solutions, c'est faut aller voir, faut toquer du côté du président. Hein. Mm-hmm. Moi, je ne résous rien. Moi, je vois que monsieur Jean-Michel Apathy, ça me fait plaisir, opine du chef. Il l'a dit d'ailleurs dans sa chronique.
Je vous l'ai dit, je vous le confirme. Et je résous rien, le grand dadé du Havre. C'est Macron qui va annoncer les bonnes nouvelles. Sauf qu'il n'y en aura pas. On n'a plus une thune. On n'est pas sorti de l'auberge.
Ouais, l'auberge espagnole.
Ah oui, c'est vrai, tout ça a été dit.
Il parle toute la langue de ce Nikos.
C'est l'Europe.
Merci Jean-Michel. Bon, on revient à vous, Édouard Philippe. Non. On a bien compris. Vous faites la synthèse. Hein,
voilà,
c'est ça.
Alors, moi, je fais la synthèse. Mm-hmm. Parce que le grand débat, qu'est-ce que c'est? C'est quand même 1 500 000 Français qui se sont exprimés. C'est 16 000, il ne faut pas oublier les chiffres, 16 000 cahiers de doléances, mm-hmm. 10 000 débats, c'est vous dire si
c'était passionnant. Bah
c'est, ah non, si je me suis fait chier avec cette putain de synthèse.
Oh, merci de votre franchise, allez, courage.
Je vous en prie.
Édouard Philippe qui va donc faire un compte-rendu du grand débat. Les cahiers de doléances dans les mairies, présents dans les mairies, ont été analysés. On va faire un petit point avec différents maires. On va commencer avec vous, Martine Aubry. Bonjour.
Les particules sont pas très fines. Oui, ça c'est pas dans le texte, hein, c'est de l'impro. Hein, que les auditeurs sachent ce que c'est que de l'extra frais. Alors, écoutez, moi, excusez-moi, je me sens. Bon, bonjour, Mme Julie. Bonjour, Monsieur Légas. Et puis bonjour quand même.
Bonjour, Madame.
Alors, vous êtes maire de Lille. Quelles ont été les demandes des Lillois?
Alors, écoutez, autant vous dire, on va être transparente, hein, ça n'a pas été simple de tout déchiffrer, parce que les doléances écrites en ch'ti, bonjour. Hein. Oh, bah, écoutez, j'en ai une que je peux vous livrer.
Lisez, oui.
Alors, je cite, faut que le chef de l'OTAN, il arrête de brer comme une bourse qui en y cause rétroblichement de l'impôt sur le bien dieu de pognon de riche l'opi en plus y en a marre, il drache. Alors, bon, autant vous dire que j'ai pas compris la moitié de ce que je viens de lire. Hein. Enfin, lui au moins, il a écrit des mots. La plupart ont fait des dessins.
Hein. Ah bon ? Quel genre de dessin ?
Oh bah écoutez, non, je sais pas si je dois vous le dire, c'est en thème.
Bon, allez-y,
bah,
allez-y,
voilà,
allez-y,
y a, écoutez, regardez, bah, pas vous-même, voilà, des zigounettes, des doigts d'honneur, hein, et des doigts d'honneur. Voilà, ça sent, quand même la crise de confiance, monsieur Agas, Mme Julie. Hein. Il faut qu'Emmanuel Macron se rende compte que si on lui dessine des bites, c'est qu'il est temps de réagir.
Oh. Eh bah, merci.
Excusez-moi d'être trivial. Hein.
Là, vous êtes passé des particules fines aux particules élémentaires.
Oh. Oui. Oh. C'est, voilà. Quel duo, allez, enfin, duo, hein. ça, c'est un beau duo. Hein.
Allez, la parole à un autre maire, Jean-Claude Gaudin, à Marseille.
Ah,
alors,
quand même, j'attendais mon tour en salle d'attente.
Voilà. Alors, quelles ont été les doléances des citoyens marseillais ?
Oui, tout d'abord, bonjour, Madame Julie, bonjour. Monsieur Ali Agas, bonjour. Monsieur Abiker, toute votre mafia autour de la table. Ils se sont reconnus. Alors, écoutez, à Marseille, les citoyens se sont exprimés et leurs revendications sont claires. Ils demandent d'urgence l'installation de systèmes sanitaires performants, adaptés aux personnes handicapées, mentales, pratiquant des activités sportives.
Oh là là, mais c'est très spécifique, là, comme demande.
Pourtant, je vous jure que sur chaque page des cahiers de doléances, ça revient. Je peux vous les citer. Aux chiottes les gogoles de l'OM, aux chiottes les débiles de l'OM, aux chiottes les crétins de l'OM. On devrait faire une offre pour acheter Choupo-Moting, votre attaquant blagueur du PSG. Comme ça, on aura la collection complète de clowns.
Merci, monsieur Gaudin.
Je vous en prie.
La presse parle beaucoup de la gêne de Nicolas Sarkozy quand il s'agit de soutenir officiellement Laurent Wauquiez pour les européennes. Hey. Bonjour Nicolas Sarkozy.
Oui, hey, bonjour à vous. Bonne fête. Bonjour. Merci. Bonjour à votre assemblée. Permettez-moi de m'incliner avec respectage devant Madame Wendy Bouchard. Qui a eu un formidable récompensage. Tout à fait méritoire.
Et oui.
C'est, faut le dire quand même à l'antenne, le prix Richelieu pour le meilleur parlage.
C'est magnifique.
Le meilleur élocage radiophonique. Heureusement qu'on est là, Wendy.
Bravo, Wendy.
Hein, je vous remercie.
Mais qu'elle est là et puis que je suis là, qu'on est là, disons-le, pour défendre la langue française. Wendy, regardez-moi dans les yeux, Wendy. On est un peu les Jean Moulin du Becherel. J'ai dû arriver deuxième derrière vous, Wendy.
Oh, certainement.
Je suis première dauphine du prix Richelieu.
Vous êtes mon poulain.
En tout cas, on est tous très fiers de Wendy Bouchard. Allez, revenons à votre difficulté à soutenir Laurent Wauquiez, M. Sarkozy.
Mais comment pouvez-vous poser ostentablement ce genre de questions, de faire de tels affirmages? Mme Bouchard, vous me trompez si je me coupe. Pardon, c'est l'inverse. Vous me coupez si je me trompe. Pardon, non. Vous me trompez si je me coupe, ça ne veut rien dire. Si vous me trompez si je me coupe, ça veut rien dire peut-être, éventuellement dans le cadre d'une circoncision. Et
encore, oh, allez, bon, au fait. Allez.
Je vais pas aller sur ce terrain-là, sinon M. Légas va rebondir.
Non, pas du tout.
Bref, pourquoi que vous parlez de ma gêne à supporter mon ami? J'ai aucun souci à le faire.
Bah, très bien, vous soutenez donc Laurent Wauquiez.
Mais bien sûr, vous savez, Laurent Ruquier est quelqu'un que j'adore. Ma femme, pour vous dire, a souvent fait son émission, elle aurait toujours répondu présent.
Attendez.
S'il a envie d'aller aux européennes, je le soutiendrai.
Non mais c'est Wauquiez, hein, Laurent Wauquiez, pas Ruquier.
Pardon, quoi que vous dites.
Non, mais est-ce que vous soutenez Laurent Wauquiez, hein? C'est votre famille politique, vous devez être là pour le soutenir normalement.
Mais bien sûr que je dois être là. C'est quand? Parce que souvent je suis pas là. Donc je peux être là, mais sauf si je suis pas là, parce que vous comprenez.
On comprend que vous avez du mal à le soutenir, avouez-le franchement.
Je vous l'avoue, bien sûr, parce que Laurent Ruquier, franchement. Évidemment que j'ai du mal à soutenir. Je dois tomber le masque. Le gars, c'est un animateur télé. Hein? Qu'est-ce qu'il va foutre aux européennes?
Oh là là,
c'est un métier, la politique, Mme Meuquer.
Bon, ben on avait compris. Hein? Merci, c'est bon. Samedi, les Gilets jaunes ont à nouveau défilé dans les rues et on a pu entendre.
Oula.
Hey, bonjour, bonjour la compagnie, bonjour Madame Julie.
Ah, tiens, bonjour Christophe Castaner.
Attendez, je vais garer la voiture.
Oui, allez-y.
Oui, je me suis, voilà. Je me suis payé une nouvelle bagnole, mm-hmm. ainsi qu'une nouvelle, regardez, une nouvelle gourmette pour fêter la fin des Gilets jaunes.
Enfin, c'est pas la fin des Gilets jaunes, hein. Il y a eu encore environ 25 000 personnes manifestant ce week-end.
Alors... pas chipoter, 25 000, c'est rien du tout, franchement, Madame Julie. C'est même pas un stade de football. Hein. Alors, les Gilets jaunes, on ferme bien sa gueule, les Gilets jaunes. Hein. On fait moins les malins. En plus, ils n'ont rien cassé du tout dans les sur les Champs-Élysées, qui sont intactes. C'est bon, je crois que j'ai réussi à leur montrer qui était le plus fort. Je vais donc aller fêter ça très vite au Manco de Tomny Gomez. Ce soir, on va se dévisser la tête sur du Daft Punk remixé par Madeon.
Non, mais il y a quand même eu des troubles ce week-end. Enfin, les manifestations ont été violentes. Au Boulou, par exemple, hein, dans
Boulou.
Les Pyrénées-Orientales. Oui,
au Boulou, dans les Pyrénées-Orientales. Même, non, mais soyez honnête. Vous-même, vous n'arrivez pas à prendre au sérieux quelque chose qui se passe au Boulou. Au Boulou, hein, on dirait même pas le nom d'une ville, on dirait le nom d'une paillote sur une plage nudiste. Hein. Si, franchement. Hey, tu viens boire un coup au Boulou? Ok, je mets un slip et j'arrive. Non, bref. Ce week-end a été un excellent week-end, je le dis à vos auditeurs. Et là, pardonnez-moi, mais je dois filer pour acheter du produit à mousse pour ma soirée mousse. Salut les losers!
La cucaracha, le klaxon.
Je mets un slip et j'arrive. La blague du jour.
Soirée mousse.
Merci beaucoup, Nicolas Canteloup. Vous êtes remarquable. On commence bien la semaine avec vous.
C'était la revue de presse avec Optimum. Pour réussir votre projet immobilier, faites-vous accompagner par un conseiller Optimum. Optimum, un réseau immobilier 100% humain, 100% engagé, 100% connecté.
Alors Nicolas Canteloup l'a dit avant nous, il nous a rattrapé. Wendy Bouchard, on est fiers de vous, vous avez été récompensé du prix Richelieu. Et c'est vrai que les membres du conseil d'administration de la défense de la langue française saluent votre professionnalisme et votre connaissance non seulement de la langue française, mais de la culture française que vous partagez depuis toutes ces années à la télévision ou ici sur Europe 1. Donc on est fiers de vous, félicitations. Le tour de la question vous sera consacré ce matin.
Vous êtes un amour, chers amis. Je vous le dois aussi, chers auditeurs d'Europe 1, parce que cette maison est la mienne. J'y ai tout appris. Je suis ravie de vous retrouver, Nico, Julie, Céline et tous nos amis auditeurs. On va, alors, une fois n'est pas coutume, faire deux questions en une aujourd'hui. Je voudrais faire un tour complet sur notre alimentation. On a une revue très importante de Lancet qui a publié une étude. Un décès sur cinq serait lié dans le monde à la malbouffe, mauvaise alimentation, mauvaise nutrition. La France n'est pas la plus mauvaise des élèves, mais on évoquera justement les comportements qui changent et surtout l'industrie agroalimentaire qui nous pousse à mal consommer. On évoquera peut-être d'ailleurs les cantines à 1 euro. Oui. Et puis face à cette réalité, il y a un jeune sur 10 aujourd'hui en France qui fait ce choix du végétarisme. Nouveau mode de vie, éthique, philosophie, ce que vous voulez. Je recevrai notamment le journaliste Hugo Clément, je recevrai Katia Raffarin dont l'ado est devenu végétarien. Beaucoup de parents s'interrogent aussi. Cette émission est faite pour vous tous et on vous répond dans le détail.
Végétarien pour ou contre, vous pouvez réagir d'ores et déjà avec le hashtag Europe pour l'émission qui débutera dans 6 minutes avec Wendy Bouchard.
Merci de vos mots. Merci beaucoup. À suivre la météo et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1. Il est 8h57, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nico Saliagas, mais tout de suite on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Eh oui, et nonobstant les éclaircies, comme dirait Wendy, bien, nous aurons un temps le plus souvent pluvieux aujourd'hui malheureusement. Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Dijonais, Auvergne, Bourgogne, Nord, Picardie, Champagne-Ardenne, des régions où il pleuvra. Il ne pleuvra pas vers la Normandie, la région parisienne, ou très peu en soirée sur Paris, le Languedoc, le Roussillon, la région lyonnaise, le sud du Massif central, c'est un secteur où nous aurons des éclaircies. Et puis d'autres pluies arrivent par la Méditerranée. Par l'Atlantique, pardon, elles ne sont pas loin, elles sont d'ailleurs déjà sur les côtes et elles vont pénétrer à l'intérieur des terres. Je termine avec la région de Provence, Alpes-Côte d'Azur et du soleil. Et enfin, les températures entre 13 et 18 degrés, ce sont des températures très douces. Voilà.
Merci Laurent Cabrol.
Nous sommes le lundi 8 avril, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. 3 mois de grands débats tout d'abord, avec près de 2 millions de contributions. La restitution commence aujourd'hui, un passage à haut risque pour le gouvernement. Il devra faire face à la défiance des jeunes envers la classe politique. Écoutez à ce sujet Jérémy Lefebvre, il est cofondateur de la plateforme internet Entendre la France qui a recueilli leurs doléances et il était mon invité à 7h45.
Les gens qui ont contribué sur Entendre la France veulent nous dire qu'ils n'ont plus confiance dans la capacité de l'État à faire son travail de manière efficace et économe. 3/4 de nos répondants sont en faveur de la réduction du nombre de parlementaires, par exemple. Si on prend justement la question des impôts, le premier sujet qui ressort, c'est le salaire et les avantages des ministres, des élus et des hauts fonctionnaires. Je suis d'accord pour payer des impôts qui vont financer des stades et des écoles.
D'accord.
En revanche, je ne veux pas que mes impôts financent le train de vie et les avantages des ministres.
L'espoir pour Anatole, le petit garçon de 9 ans qui est en ce moment aux États-Unis pour soigner sa tumeur au cerveau. Grâce à votre mobilisation, ses parents ont pu financer le voyage et les soins. Un appel aux dons avait été lancé il y a un peu plus d'un mois déjà par son père sur notre antenne sur Europe 1. On a voulu prendre des nouvelles d'Anatole ce matin. À 7h, on passait un coup de fil à son père, Fabrice Donghi, depuis Washington.
Il est conscient de tous les dons de générosité hein, autour de lui. Nous, on lui relaie toutes les petites attentions, tous les messages, les dessins, les vidéos qu'il reçoit. Et il est très sensible à ça et ça le porte énormément. On est dans des cadres de traitements expérimentaux, donc on a pas beaucoup de visibilité. On espère une amélioration rapide, mais ça peut prendre du temps.
On croise les doigts pour Anatole, 9 ans aujourd'hui. Il manque encore à sa famille 20 000 euros pour continuer le traitement. Si vous voulez contribuer, ben ça se passe sur Internet, tous avec Anatole ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. On a une pensée également pour le service médical, tout le corps médical de l'hôpital Édouard Herriot. Nous étions vendredi en direct de Lyon pour cette matinale. On pense aussi à tous ceux qui sont hospitalisés et qui nous écoutent partout en France ou ailleurs. Voilà pour l'essentiel de notre matinale. 2 heures d'infos et de bonne humeur qu'on partage dès 6h50 avec Mathieu Noël. On passe le relais. Céline Dacosta est là dès 3h du matin.
Oui, c'est pas faux.
Sur Europe 1. Bonne journée à tous. Merci de votre confiance. Prenez soin de vous. Tout de suite, Wendy Bouchard. Le tour de la question avec Julie. Bonne fête, Julie, une fois encore.
Une fois.
Je vous embrasse. Bonne journée.
Merci. À demain, Nikos.
À demain.
À demain, l'ami.